Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il court, mais il sprint vers Pulido. Il lui met un coup de poing monstrueux. Non, mais c'est n'importe quoi.
Bah, écoute, moi, je trouve ça pas non plus scandaleux.
On est vraiment dans une société de fragiles, sérieux, quoi.
Non, mais je comprends Polo et Daniele. Après, je te comprends toi aussi et je comprends tout à fait Edgar.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. C'est Génération After spécial Drôle de Dame. La seule émission à la radio française qui parle pendant 2 heures des championnats étrangers, même à 10 jours d'une Coupe du Monde. Pour l'Espagne, une drôle de dame qui va vivre sa première Coupe du Monde, pas en tant que journaliste, mais en pleine conscience. Tu vas voir Edgar, il va te rester plein d'images quand tu seras grand. Bonsoir Edgar.
Salut Nico, salut tout le monde, c'est à peu près ça.
On va t'accompagner pour découvrir tout ça, tu seras sur place, en plus c'est merveilleux. Pour l'Allemagne, une drôle de dame qui dira après chaque match de cette Coupe du Monde, ça ne vaut toujours pas le Mondial 74 ou 82. Bonsoir Paulo Breitner.
J'ai jamais dit que le Mondial 74 était...
82 de toute façon, quel est ton Mondial préféré?
C'est 82. Tout le
82,
monde
bien sûr.
C'est pas mon choix, c'est l'histoire.
C'est l'histoire.
Bah ouais.
D'accord, on pourra en débattre, ce soir on pourra en parler d'ailleurs, ce soir, en deuxième heure. Pour l'Italie, une drôle de dame. Bonsoir Daniele.
Bonsoir, bah merci Nico.
Je sais pas quoi te dire, mon pauvre Daniele.
Bah, parfois, de rien dire, c'est le mieux de dire.
Et pour l'Angleterre, une drôle de dame qui sait pertinemment que l'histoire finira par un tête contre tête. Tourelle Bellingham, une élimination en quart de finale et Harry Kane, le genou à terre. Bonsoir Julien Laurence.
Salut Nico, t'as peut-être raison.
Tu t'es préparé à ça ou pas? Toute éventualité,
bien sûr.
Ouais, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Je me prépare à toutes les. Avec eux, tu sais jamais ce qui va se passer. Donc, bon. Comme ça.
Bon, de toute façon, maintenant t'en fous, hein. T'es champion d'Europe, t'es finaliste.
Double champion d'Europe, s'il te plaît.
T'es double champion d'Europe, exactement. T'es champion d'Angleterre aussi, un petit peu quand même. Tu peux
tout à
on
fait,
peut le
tout
dire
fait,
quand
tout
même.
Tout,
tout va bien.
T'es un
pour
peu tiraillé samedi quand même. Ouais.
Bon, l'été, la saison est déjà réussie. Ce soir, pas de 3 points. C'est une émission particulière post-saison de club et pré-mondial. Dans un instant, comment le nouveau sacre du PSG est commenté chez vous? L'actu Mercato, Anthony Gordon au Barça, pourquoi? Le départ de Konaté de Liverpool, pour où? Qui pour succéder à Slot? Adrien Rabiot suivra-t-il Allegri à Naples? À 18h, à la relance. Dans son ancien club à l'Eintracht Francfort. Et donc, dans la deuxième heure, spéciale Coupe du Monde, l'actu de vos sélections et ces questions. Qui est favori? Votre favori pour le mondial? Qui sera votre meilleur joueur? Selon vous, votre révélation? Également du tournoi, on va jouer ensemble ce soir, 32-16 ouvert avec les drôles de dames. Et à 22h, la dernière date de l'immense tournée de l'After, les 20 ans, qui se ponctue dans le Nord. Bonsoir Gilbert.
Salut à tous. Et oui, on est à Valenciennes ce soir, au cinéma Pathé de Valenciennes pour la dernière étape de tournée des 20 ans. On a fait une bonne dizaine de villes maintenant et on est ravis d'être à Valenciennes où il y aura beaucoup de monde ce soir au cinéma Pathé. On va parler évidemment du PSG, revenir sur le week-end et la suite, jusqu'où peut aller ce PSG. Puis l'After va répondre à Emmanuel Macron qui a un peu parlé de nous sans nous citer, à Nasser Al-Relaifi qui pense que le PSG est désormais le club de toute la France, et puis Olivier Létang sera avec nous, on n'est pas très loin de Lille, ici Olivier Létang qui nous présentera son nouveau coach, qui nous parlera Mercato, la préparation de la Ligue des Champions. Donc beaucoup de PSG, beaucoup de Lille et de la Coupe du Monde ce soir. On parlera notamment des problèmes de dos de Saliba, et puis un peu de Valenciennes aussi quand même, parce que Valenciennes c'est Steve Savidan, c'est José Cèze, mais c'est aussi Georges Ebruchaga.
Jacques Glassman également. Merci Gilbert, à l'After à partir de 22h jusqu'à minuit. C'est parti pour les drôles dames. Alors on va revenir quand même quelques minutes sur la finale de la Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain, savoir comment elle est commentée, perçue chez vous, quelles conséquences il peut y avoir chez vos clubs majeurs également, quand c'est une confirmation comme celle-ci, dans la forme, dans le jeu, sur le fond également. On va en parler ensemble. D'abord, toi Edgar, en Espagne, qu'est-ce qui est mis en avant deux jours ou sur le lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain?
Le succès de Luis Enrique, évidemment. Je pense, oui, que ce troisième titre en Ligue des Champions pour lui, et surtout deuxième consécutivement, ça le place dans une autre catégorie dans l'esprit des gens. Ça le place vraiment chez les génies, chez les très grands entraîneurs du 21e siècle. Et je pense que personne n'avait besoin de ce titre-là pour le placer déjà parmi les meilleurs. Mais là, peut-être qu'il passe encore dans une autre catégorie. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'en Espagne, c'est vu comme ça. Beaucoup ont rappelé notamment, et ce qui a beaucoup tourné ces derniers jours en Espagne, c'est cette fameuse vidéo, vous savez, dans son documentaire où il dit l'année prochaine, quand Kylian Mbappé sera plus là, je vais contrôler toutes les situations. Et là, tu te rends compte que derrière, il gagne deux Ligues des Champions. Donc ça a beaucoup fait réagir en Espagne. La vidéo est ressortie, a énormément tourné. Et pour les Espagnols, c'est aussi le symbole du succès d'une philosophie de jeu, d'une philosophie espagnole. Et c'est aussi quelque part, même si c'est pas un club espagnol, la réussite du foot espagnol, parce que il y a cette patte Luis Enrique, parce qu'en face aussi il y avait Mikel Arteta. On l'a dit la semaine passée, les Espagnols sont très fiers d'avoir autant d'entraîneurs qui ont réussi cette saison.
Oui, et en même temps, Edgar, les Espagnols sont contents de plus l'avoir comme sélectionneur, Luis Enrique.
Oui, aussi, mais quelque part, mais oui, mais parce que ça se passait moins bien aussi avec l'Espagne, parce que je pense que aussi son personnage, c'est plus compliqué pour une sélection, mais c'est la confirmation, en fait, que c'était pas juste un one shot, entre guillemets, avec le Barça, avec des très grands joueurs. Là, il a construit son équipe de A à Z, il fait quelque chose de fou, et vraiment, en Espagne, ça a été énormément suivi, et maintenant qu'on a analysé, on va dire, le succès de Luis Enrique, on regarde son propre championnat. On se dit qu'on a envie de voir le Barça rapidement essayer de rivaliser avec ses joueurs. On se demande ce qui leur manque aussi pour arriver à ce niveau-là. Et on commence, côté madridien, à avoir un petit peu peur, à se dire on espère quand même que le PSG va pas aller en chercher trois d'affilée pour
vraiment aller, ça c'est une inquiétude du Real Madrid.
Non, mais je pense pas, supporters en tout cas, qui se disent ouais. C'était quand même ça fait quand même bizarre de voir une autre équipe peut-être créer une dynastie, parce que on avait l'impression que ce genre de choses c'était aussi réservé à des clubs comme le Real Madrid, comme le Barça, qui étaient les rois d'Europe. Maintenant, ce sont plus les rois d'Europe. Il y a d'autres équipes qui mènent la danse. Et je pense que c'est un beau challenge maintenant pour le foot espagnol de montrer, OK, c'est toujours la philosophie espagnole qui domine l'Europe. Mais il faut aussi que ça soit les clubs maintenant qui rivalisent avec ce genre d'équipe, avec le PSG, avec le Bayern dans les prochaines années.
Ta question également. Polo, toi, est-ce qu'on traite la victoire du PSG comme la victoire d'un club français? Je te pose la question, je me pose la question également, ou comme vraiment une équipe tellement à part en France, en Europe, qu'il est difficile de l'identifier, quoi, sur le plan national.
Je vais rester sur le terrain des journalistes allemands, parce que j'ai pas vu la finale. Chez Kicker, ce matin, l'information a été traitée en page 30 et 31.
Waouh.
Donc, c'est relayé tout au fond, en gros, avec deux très beaux articles, d'ailleurs, un sur Arsenal, qui paye un petit peu la stratégie, on va dire, mise par Arteta sur les derniers mois. Et puis, par contre, à l'inverse de ce que vient de dire Edgar, les Allemands sont persuadés que le PSG peut créer une ère et que ça va être très dur de revenir au niveau de ce PSG-là, puisque y compris lors de la demi-finale contre le Bayern, la différence, c'est pas qu'il y a une équipe qui est forte offensivement, c'est qu'en face, il y a une équipe complète. Et Luis Fernandez a fait une interview dans la Süddeutsche en disant ce qui est intéressant avec cette équipe, pourquoi on l'aime, cette équipe du PSG, c'est qu'elle est aussi bonne, on l'aime quand elle a le ballon, mais on l'aime aussi lorsqu'elle n'a pas le ballon. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de football total comme l'Ajax des années 70, mais de football complet. En Allemagne en tout cas. Et donc c'est là où on est persuadé, et c'est là le défi pour le Bayern, c'est-à-dire, c'est marrant qu'en Allemagne, ils n'aient pas parlé de ça, mais les deux seules défaites du Bayern en Ligue des Champions sont les deux seules défaites face aux deux finalistes. Donc est-ce que ça veut dire que contre une équipe, entre guillemets, je mets trop défensif, ce qui n'était pas le cas lors du match aller, le 3-1 à Londres face à Arsenal, le Bayern de compagnie ne sait pas comment faire, et surtout ils ont été dépassés lors du match retour par une équipe beaucoup plus complète. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de boulot pour non pas aller en demi-finale, mais aller chercher.
Est-ce que tu es d'accord avec ce constat, franchement Polo? Est-ce que moi, la marge est importante entre le Bayern par exemple et le PSG? Tant que ça.
Moi, j'oublie pas que le PSG menait 5-2. C'est-à-dire, tu mènes pas 5-2 comme ça, quoi. C'est-à-dire que même s'il y a eu des occasions dans tous les deux, ça a été ce match au fou qui a fini à 5-4. Je veux dire, 5-2, t'es quand même proche du ravin lorsque tu es le Bayern ou n'importe quelle équipe. Et on va dire, c'est presque le PSG qui permet à Upamecano, si même moment ne fait pas défaut, de revenir à 5-3, puis ensuite ça le 5-4. Mais le match retour est très intéressant parce que au-delà, peut-être, je vais rapidement d'arbitrage qui reste quand même un problème en Europe du football,
sans le mettre tout en haut, sans le mettre tout en bas. Il y a un vrai problème au niveau footballistique, au niveau de l'arbitrage, je pense, en Europe, parce que ça va trop vite. Je pense pas qu'on ait les bonnes solutions. On l'a trop compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, le PSG peut aller chercher une troisième Ligue des Champions, mais c'est la question de la motivation interne et du vestiaire et de Luis Enrique et des joueurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, je pense qu'on va en parler pendant les deux heures, Diomandé n'est pas annoncé au PSG, mais on sait qu'il y a des négociations. Mmh. Si tu commences à aller chercher des joueurs qui sont déjà l'avenir du football européen, et du football ivoirien évidemment, ça risque d'être compliqué pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je trouve assez extraordinaire dans ce PSG-là, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont matures et qu'ils ont pris la chance, entre guillemets, du Real d'il y a quelques années.
Tout à fait. Oui, la chance en plus de la structure, collective, du discours, de la motivation, de l'état d'esprit.
Ils arrivent à s'adapter. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette équipe du PSG version Luis Enrique, et donc pour les détrôner, ça va pas être évident.
Julien, est-ce que tu faisais partie de ceux qui se disaient samedi soir pendant le match, après l'égalisation du PSG, même pendant la prolongation, de toute façon, un peu comme le Real à son époque, hein, 2017, 17, 18, ça va finir dans l'escarcelle du Paris Saint-Germain?
Sincèrement, non, j'étais pas trop dans cette optique-là. J'ai trouvé la résistance entre guillemets d'Arsenal assez intéressante, et moi je pense que le plan de jeu, même si au final ça n'a pas fonctionné exactement comme Arteta l'aurait voulu et qu'il a manqué un peu de joueurs techniques quand même dans certaines positions clés. Sinon, donc j'étais plus dans une analyse autre déjà que de me dire bah ça y est, c'est gagné pour le PSG maintenant qu'ils sont revenus au score. Parce qu'une fois arrivé au tir au but, je me suis dit que Raya a aussi parfois été très bon dans les séances de tir au but. Et même si je savais que Safonov avait un peu la baraka et le PSG avait gagné les cinq dernières séries aussi de tir au but. Donc il y avait peut-être un petit avantage pour eux, mais non, je voyais pas trop ça comme ça. Et puis finalement, j'ai aimé le contraste entre les deux équipes. J'ai aimé que le PSG a cherché cette victoire dans le sens où ils ont dû beaucoup plus batailler, par exemple, que la saison dernière contre l'Inter, qu'il a fallu trouver d'autres solutions dans un match qui était beaucoup plus fermé, bien sûr. Mais si tu ouvres contre eux, tu te fais punir. Si tu fermes contre eux, tu perds aussi. Si tu fais un peu des deux, comme Chelsea ou Liverpool, tu te fais punir aussi. Donc, j'ai trouvé finalement que cette victoire du PSG, elle était tellement complète dans tout ce qu'ils ont pu faire cette saison, finalement, et que les pires adversaires auront été Monaco et Arsenal en Ligue des Champions depuis le mois de janvier. Ouais, exactement.
Julien, c'est une question quand même qui se pose, parce que je pense que ceux qui nous écoutent se demandent comment Arsenal est traité en Angleterre après cette défaite. Arsenal très critiqué en France, je ne sais pas si tu l'as vu à distance forcément, pointé du doigt. Le PSG valorisé, il y a des stats folles, évidemment, 24,7% de possession, un joueur comme Odegaard qui touche 12 ballons en 36 minutes, un Arsenal qui réussit 196 passes pendant que Vitinha en réussit à lui seul 141. Est-ce que tu penses que Arteta a épuisé sa méthode? Est-ce qu'il va la faire évoluer ou rester sur ce qui lui a permis d'être champion d'Angleterre enfin?
Alors, il y a plein de choses dans ta question, parce que son style de jeu a évolué dans la saison déjà. Je l'ai répété assez souvent.
Par rapport à ce qu'il a produit ces derniers mois, surtout.
Voilà, les derniers mois, oui, mais les derniers mois, ça peut s'expliquer encore une fois par un coup de moins bien, un peu de la fatigue sur certains joueurs, notamment Zubimendi par exemple, d'autres qui reviennent de blessures comme Saka ou Odegaard. Quand tu perds un joueur comme Timber, quand Timber est entré en jeu, on a vu la différence tout de suite par rapport à Mosquera. Mais il pouvait pas débuter, c'était pas possible. Donc il y a d'autres choses que tu peux aussi, avec quoi tu peux expliquer un petit peu le changement ou l'évolution tactique, on va dire, ou dans les initiatives ou dans la volonté de ce que Arteta a voulu faire. Moi, je continue à dire que contre cette équipe du PSG, on l'a vu avec Chelsea à la Coupe du Monde des clubs, c'est finalement la meilleure tactique à employer. Alors tout le monde peut pas le faire, c'est sûr. Il y en a d'autres qui voudront jouer comme le Bayern, et il y a des jours où ça passera. Mais si tu ouvres contre le Bayern, encore une fois, tu offres au PSG tout ce qu'ils aiment. Donc je pense que le plan de jeu était pas forcément le mauvais au départ. Le but très tôt de Havertz en fait amplifie un peu ce côté négatif de bah maintenant on va défendre, parce que maintenant on mène au score, donc on va faire ce qu'on avait prévu de faire, mais encore plus défensivement et puis encore plus, et ça c'était très compliqué pour eux. Tu peux pas défendre contre cette équipe là pendant 84 minutes. C'est pour ça que je pense que dans certaines zones du terrain il aurait fallu un peu plus d'habileté technique chez certains joueurs d'Arsenal. Par exemple, moi j'aurais fait jouer Calafiori et pas Incapié, j'aurais mis Eze à gauche et pas Trossard, pour justement avoir la densité mais en plus la qualité technique pour pouvoir au moins rivaliser à la récupération du ballon avec le PSG. Il a fait d'autres choix, voilà, j'ai rien contre ce qu'il a fait, encore une fois, je peux très bien le comprendre. En revanche, il a très vite compris que là, ça aurait pu marcher peut-être ce soir-là, mais que de toute façon, la saison prochaine, il fallait faire autre chose. Je pense qu'ils vont investir cet été assez lourdement, entre guillemets, ils vont vendre beaucoup, ils vont acheter beaucoup aussi, enfin, en tout cas, ils vont acheter sûrement cher certains, mais en tout cas, je pense qu'ils sont très... conscients de ce qu'ils doivent aller chercher. Par exemple, tout de suite, une des premières réponses de Arteta en conférence de presse après le match, c'est il nous faut un moment. Alors, il n'a pas dit quel côté, mais c'est sur le côté gauche. Oui. Un joueur qui, en 1 contre 1, va pouvoir faire des différences. D'accord. À lui tout seul. En gros, un Kvaratskhelia, ce genre de joueur-là. Parce qu'on l'a bien senti samedi, que ça manquait beaucoup dans ce que Arsenal pouvait faire dans la configuration tactique qu'ils avaient choisie.
Bon, et déjà en demi-finale, par exemple, hein, je me souviens face à l'Atlético, c'était frappant, c'était terrifiant de voir autant, et particulièrement sur le côté gauche. Je me souviens par exemple de Martinelli au match aller au Metropolitano. Il prend la balle, il revient vers l'arrière, et tu dis mais si t'as quelqu'un qui vient provoquer, créer quelque chose, ça va être beaucoup beaucoup plus intéressant. Et c'était un manque qui, je trouve, est très très facilement identifiable, même quand tu regardes quelques gros matchs d'Arsenal. Ça saute aux yeux, je trouve, par rapport aux autres grandes équipes européennes cette saison.
Il y a un nom qui sort du chapeau ou pas? On parlera de Yann Diomandé, qui lui préfère jouer à droite, même s'il joue à gauche à Leipzig. Il y a des noms qui sortent déjà ou pas, Julien?
Oui, bien sûr. Alors, un joueur comme Gordon, par exemple, c'est un joueur qui était apprécié du côté d'Arsenal, qu'il a choisi le Barça plus que le Bayern ou qu'Arsenal. Et voilà, bon courage à lui, on verra ce que ça va donner. Aussi, un joueur comme Mika Götze, dont on parle beaucoup, qui est encore un très jeune joueur. C'est pas la solution forcément, mais en termes de dribbleur cette saison, dans les sept grands championnats, on va dire, si on inclut le Portugal et les Pays-Bas, il est tout en haut en termes de dribble réussi, par exemple. C'est un joueur qui est très excitant, qui peut faire des différences comme ça dont parlait Arteta. Un joueur comme Barcola, bien sûr, aussi, parce que on sait pas trop ce qui va se passer pour lui au PSG. C'est un joueur qui est suivi par beaucoup de grands clubs, notamment en Angleterre, parce qu'il plaît beaucoup, beaucoup. Son profil plaît beaucoup en Angleterre, malgré les problèmes à la finition, comme on l'a encore vu samedi dans la finale. Donc, ils ont plusieurs options. Un Morgan Rogers, un Julian Alvarez. Alors, c'est des joueurs différents, ça, mais pour renforcer, en tout cas, cette ligne d'attaque, t'as aussi d'autres profils qui vont aller chercher. Et je pense qu'ils sont tout à fait conscients des progrès qu'ils ont à faire encore avec ballon, notamment comme ça, en fin de saison, quand tes organismes sont compliqués. Parce que l'autre, juste pour finir sur comment nous, on a vu comme la finale a été vue depuis l'Angleterre, les gens se demandent, est-ce que Luis Enrique pourrait faire ça avec un club anglais? Vu les demandes physiques de la Première Ligue sur 38 journées, sans trêve hivernale, choses comme ça, est-ce qu'il serait capable de jouer ce football-là, en fait, en Angleterre? Et c'est la grande question. Et de toute façon, on le saura, parce qu'un jour, il viendra inévitablement ici.
Ah bon?
D'ailleurs, samedi, quand... Pardon?
Tu penses?
Ah, moi, j'en suis convaincu, ouais.
Ah oui.
Même lui aussi, hein, il le dit tout le temps, qu'il adore la Première Ligue, il a appris l'anglais pour venir entraîner en Première Ligue. Et d'ailleurs, dès que Slot a été viré de Liverpool, les gens que j'ai rencontrés au stade en arrivant, on était arrivés très tôt, nous, tout le monde me disait, ouh, Liverpool, Luis Enrique, est-ce que c'est possible? J'ai dit, calmez-vous, relax, déjà, tout le monde va se calmer. Mais dans 2 ou 3 ans, à mon avis, quand il aura fait tout le tour du projet parisien, je pense qu'il viendra en Première Ligue.
D'accord. Intéressant. Bon, Daniel, chez toi, comment on a regardé ça, justement? Qu'est-ce que ça raconte, le sacre du PSG depuis l'Italie? Est-ce que, on a l'impression de voir le multivers, le futur, ou le passé, peut-être, de l'Italie?
Non, ça, c'était plutôt pendant le match entre le PSG et Bayern Munich. On avait souligné la distance de qualité technique et athlétique. Non, on a beaucoup parlé de l'attitude d'Arsenal. On l'a un peu mis dans les mêmes chapeaux des équipes italiennes qui font du catenaccio, qui défendent. Moi, je suis pas d'accord, hein. Moi, ça, c'est la lecture des social networks et aussi un peu dans la télé, dans les journaux où ils ont un peu quand même souligné le fait qu'Arsenal, ils ont pas beaucoup essayé. Moi, je pense que, en tout cas, on a vu quelque chose d'intéressant, parce que c'est vrai que c'est pas juste une question d'attitude, c'est-à-dire faire bloc bas ou moyenne contre une équipe comme PSG. Mais Arsenal, ils ont aussi défendu en regardant la zone, l'espace. Ça, c'est une grosse différence. C'est pas des marquages individuels, comme même en Premier League, on en a vu beaucoup. Cette saison, même, pas Guardiola, mais l'assistant de Guardiola, je me souviens pas comment il s'appelle, le deuxième Pep, il a parlé de fait que même en Premier League, il y a beaucoup de marquages individuels. Et ça crée des problèmes à la construction du jeu quand il part du gardien. Mais la défense, comme ça, en bloc, en regardant les espaces, très solide, très solidaire et très attentif, ça demande une concentration de folie. Moi, je pense, un peu une nouveauté à cet stade-là de football. Et ça montre les biens. Parce que Arsenal, je pense qu'ils ont très très limité Paris, même si peut-être le Paris Saint-Germain, ils n'étaient pas dans leur meilleure journée. Mais après, ça a montré aussi qu'effectivement, tu peux pas garder cette concentration tout le match. Ça suffit un petit moment où tu es un peu en retard avec Mosquera et voilà, et un petit 1-2 de Kvara et Dembélé, et ils sont passés. Mais effectivement, pour longtemps, le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas eu la solution au problème que Arsenal leur montrait.
Tout à fait. Vas-y, Polo.
Oui, il y a juste une chose quand même qu'il ne faut pas oublier. C'est quand tu, il y a le côté sportif, mais il y a ce qui s'est passé à Paris aussi, des violences.
Bien
et
sûr.
En Allemagne, il y a un article sur deux qui parle des violences quand même. Et l'image, de, je crois que vous ne vous rendez pas compte du côté allemand, l'image qu'a la France en ce moment dès qu'il se passe quelque chose. Évidemment très populiste aussi dans certaines interviews qu'on voit en Allemagne, comme quoi il ne se passe jamais rien en Allemagne, mais par rapport à la France, en gros, c'est presque une guerre civile.
Oui, c'est ça. Ouais. Il y a les mouvements populistes européens qui sont emparés des images. Oui. Pour appuyer là-dessus également. Non, il ne faut pas nier la réalité. Mais c'était une récupération politique.
Dommage ou dramatique, c'est que lorsque tu vois un incident qui se passe dans des piscines berlinoises, par exemple, tout de suite, la référence au niveau de la violence dans les piscines en Europe, c'est la France. Donc il faut aussi se rendre compte un petit peu de l'image qu'on est en train de véhiculer à l'étranger. Voilà, c'est aussi quand même... On devrait ne parler que de la qualité technique du PSG. Mmh. Et en fait, 50% des articles, c'est des problèmes sociétaux donc ou des questions sociétales. Donc moi, je trouve ça assez dramatique quand même que la presse allemande, je sais pas comment ça se passe dans vos pays respectifs, ne parle quasiment que de ça, alors qu'on devrait s'intéresser à ce que le PSG est capable de faire...
Je vais poser Daniel Echeto, est-ce qu'on en parle beaucoup des violences post-finale, même pendant la finale ou pas en France?
Oui, mais c'est très polarisé, c'est-à-dire c'est les journaux de droite et les personnalités sociales de droite qui
font pour ça. Appuyer leur discours, quoi, c'est ça.
Oui, moi, il y a eu aussi des très belles photos, des très belles scènes, des très belles vidéos, des très beaux vidéos. Après, forcément, c'est une grande ville, il y a des problèmes comme partout. Mais voilà, moi je veux aussi de belles choses, même en Italie. Hein.
Bon, en Angleterre, en tout cas, il y a quand même une parade assez folle pour le titre de champion aussi, Julien, malgré la défaite contre le PSG.
Ouais, incroyable, elle était prévue depuis longtemps, avec un trophée ou deux s'ils avaient gagné la Ligue des Champions, forcément. On attendait beaucoup de monde déjà, parce que rappelez-vous, on avait vu des scènes de liesse assez incroyables autour de l'Emirates, le mardi soir où ils sont champions après le match de City à Bournemouth, le dimanche après le match de Crystal Palace où ils ont le trophée, mais bon, forcément, tous les supporters ne pouvaient pas être au stade de Crystal Palace l'après-midi, donc ils s'étaient tous réunis. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait beaucoup de monde, etc. Je pense que personne ne s'attendait à une marée rouge de la façon dont on l'a vu dimanche après-midi. C'était juste incroyable. On parle entre 1 million et 1,5 million de supporters qui étaient là dans les rues du nord de Londres. C'était incroyable à voir. Vous avez qu'à voir les vidéos sur les réseaux sociaux. Il y en a notamment... certaines où tu vois à un moment la densité de gens à certaines croisements de rue qui est juste phénoménal, quoi, avec du rouge partout des gens qui sont montés sur les toits.
Malgré tout, la saison est réussie pour Arsenal, il faut le rappeler. Évidemment, il y a le retour d'un sacre enfin en Première Ligue. Cette défaite avec des champions atténue pas totalement, mon cher Julien, la joie d'avoir enfin récupéré un titre en Angleterre, quoi.
Ouais, non, bien sûr, l'objectif du début de saison, je l'ai souvent répété, c'était d'être champion d'Angleterre. Donc ça, tu l'avais réussi, ta saison a été réussie quoi qu'il arrive. Après, oui, si t'avais pu faire un doublé historique, magnifique, pour la première fois, remporter la Ligue des Champions pour le club, ça t'aurait amené encore une fois dans une autre dimension. Mais le dimanche, il n'y avait que des sourires partout, il y avait cette joie de la Première Ligue. 22 ans, c'est long pour un club comme Arsenal. Tu te rends compte de la puissance de l'amour que les gens ont pour ce club dans Londres, mais pas que dans Londres. T'as des gens qui ont traversé l'Atlantique pour venir, il y avait des gens qui étaient venus de partout, t'avais toutes les générations, toutes les couleurs de peau, toutes les orientations religieuses, tout ce qu'on voulait. C'était incroyable, sincèrement. C'était tellement beau à voir, mais même si vous n'êtes pas sur d'Arsenal, bon, alors après, à part les NE, bien sûr, mais sinon, de voir un club communier avec son public de cette façon-là, et encore une fois, c'est pareil pour le PSG hier à Paris, pour ceux qui gagnent dans leur club, le Barça, on a vu une très belle parade aussi chez Edgar, enfin voilà, c'est pas que Arsenal, mais là, c'est vrai que le nombre de gens qui avaient tellement attendu dans toutes les fenêtres autour du stade, il y avait des drapeaux, des écharpes, des serviettes, tout ce que vous voulez, c'était juste phénoménal, c'est bravo, et bravo à eux, ils l'ont fait. Le plus dur maintenant commence dans un sens, pour rejoindre ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, Nico, dans l'évolution, dans la progression encore de cette équipe, d'Arteta lui-même, en tant que jeune entraîneur, encore une fois, on a vu peut-être un petit peu aussi dans ces changements, par exemple, la différence avec Luis Enrique, puisque quand Hincapié se blesse à la fin, ben voilà, il a fait tous ces changements, il les a fait en même temps en plus, donc c'était peut-être des choses qu'il va apprendre, et je pense qu'ils vont beaucoup apprendre de la défaite de samedi en Ligue des Champions, mais cette parade, elle était vraiment magnifique à voir et à suivre.
Pour être tout à fait complet, également émaillé par les incidents, avec 6 personnes qui ont agressé à l'arme blanche, en marge des célébrations du titre. Voilà, exactement, une fois que la majeure partie de la foule était rentrée chez elle déjà.
Il y a un truc et un mot qu'on n'utilise plus du tout, qu'on a connu, et même, je pense, certains chez vous, vous en faisiez partie, c'est La question, est-ce que c'est on a un retour du hooliganisme ou est-ce que c'est autre chose?
Alors, tu peux l'appeler différemment. En tout cas, ce qui s'est passé à Paris après en marge de la finale et après la finale, c'est pas du hooliganisme.
La Coupe de France,
c'est dur à qualifier. Comment?
La Coupe de France, pas la finale de la Coupe de France entre les Niçois et les Parisiens, la bagarre.
Oui.
Tu vois ce genre de scène là.
Ça oui.
Ensuite, on a eu encore cette saison là
dans les divisions inférieures, mais on disait dans les années 80-90, on rappelle quand même que l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni a été interdit de Coupe d'Europe suite aux Wesel de 85 pendant 10 ans, faut pas l'oublier ça quand même. C'est pas de jeter la faute sur les sur la Grande-Bretagne, parce que les Allemands avaient beaucoup de problèmes, les Néerlandais évidemment, il faut se rappeler la finale de 75 au Parc du Bayern au PSG, ce qui se passe hein, c'est pas neutre. Donc moi j'aimerais vraiment que les spécialistes nous expliquent ce qui se passe, si ce sont vraiment des gens qui sont entre guillemets supporters du PSG, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se revendiquent supporters du PSG, et j'ai envie de donner une petite anecdote à côté. C'est on dit souvent que les anarchistes sont des individualistes, mais tous les individualistes ne sont pas des anarchistes. Et moi, ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est quelle est cette violence aujourd'hui dans la cité, d'où elle vient, pourquoi, comment. Est-ce que on explique ça? Et je trouve qu'il y a relativement des personnes, et comme le dit très bien Daniele, qui s'expriment d'un point de vue politique. Mais moi, je préfère écouter les sociologues d'une façon qui m'explique ce qui s'est passé depuis 40 ans, pourquoi,
bien sûr.
Comment, et le remettre en perspective.
Retour d'une appétence à la violence, en tout cas, mais elle est hétérogène, hein, Polo, j'ai l'impression. Il y a plusieurs sources. Hein.
Ah, mais je pense que oui,
partout,
je suis d'accord.
Hein, tu vois.
Mais parce que moi, pendant 30 ans, on m'a dit, l'hooliganisme des années 80, 90, c'est fini. Ah bon, en Allemagne, il y en a, hein, je peux t'assurer. Hein. Mais il y a aussi de plus en plus de personnes dans les stades. Donc, en pourcentage, il y a forcément plus de violence. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Quand tu as 50 000 personnes qui sont dans un stade et 1% de compte, ça fait toujours 500 personnes. Mmh. Quand tu en as 10 000, ça fait 100. Hein. Donc, c'est ça. Et je trouve qu'on a relativement peu d'explications rationnelles.
Tout à fait.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut excuser. Mais moi, je trouve qu'on a un travail à faire.
Ce qui est terrible, c'est qu'on savait avant même qu'il y aurait des violences. Désormais, c'est une sorte de fatalité. Voilà. Ça arrive comme beaucoup l'avaient prévu, malheureusement. Bon, bref, c'est un débat qui mériterait beaucoup d'heures sur RMC. Ou ailleurs, et du temps avec des gens encore plus compétents, des sociologues par exemple. Voilà pour les festivités, notamment le titre du PSG en Ligue des Champions. Maintenant, on va écouter la première minute de la soirée et c'est Polo qui garde la main. On envoie la musique, s'il vous plaît. Ah ben, ça va nous apaiser, dis donc, c'est super.
Voilà, c'était JBO. Stinkerfinger, un doigt d'honneur. Pourquoi? Alors, vous savez très bien que dans quelques jours, elle va commencer une Coupe du Monde aux Amériques et notamment aux États-Unis. Et moi, évidemment, qui dit Nationalmannschaft aux États-Unis, me rappelle 1994 avec un événement qui est très, très important. Nous sommes à Dallas. Donc au Texas, l'Allemagne, la Nationalmannschaft, qui, et ça on l'oublie complètement aujourd'hui, s'est revue en Allemagne, a peut-être l'une des plus grandes générations et tenante du titre de la Coupe du Monde évidemment, qui est sur le terrain et sur le banc, peut-être un peu vieillissante mais extraordinaire. On a des Hammer, on a des Matthäus, il y a des Guido Bourval, il y a Klinsmann qui est en feu, Riedle, etc. Il y a Hassler, enfin c'est une équipe monstrueuse. Et puis il joue la Corée du Sud, évidemment, mi-temps 3-0, tranquille. Sauf qu'il y a un petit problème aux États-Unis, c'est qu'il fait super chaud. Et ça coupe les pattes des Allemands en seconde période, qui se font remonter 3-1 puis 3-2. Mmh. Et Bertie Fauque, le sélectionneur, en a un ras-le-bol. Donc il voit que Stefan Effenberg n'est pas content de. Enfin, Bertie Fauque n'est pas content de la performance de Stefan Effenberg, qui en plus a pris un deuxième carton jaune, donc il est suspendu pour les huitièmes de finale. Donc il le sort. Et Effenberg se fait huer par les supporters de la Nationalmannschaft à Dallas. Et que fait-il, ce cher monsieur? Il fait un doigt d'honneur. Il en fait même pas un, il en fait deux en fait. Parce qu'il y a très peu d'images de l'époque. Et il est par la suite exclu de la sélection allemande et il va retourner directement en Allemagne. Il va s'occuper de la Fiorentina qui à l'époque est en seconde division, et ce sera l'un des plus gros scandales de la sélection allemande, puisque Bertie Vogt ne supporte pas ce genre de geste. Et donc moi, c'était juste pour préparer la Coupe du Monde que je parlais de ce doigt d'honneur qui moi me fait
peut-on
toujours
rêver. Peut-on encore voir ce genre de geste dans la Nationalmannschaft? C'est la question, Polo. Est-ce qu'un joueur est capable
aujourd'hui la sélection allemande, ce sont des Bambi, quoi. Enfin, c'est à l'image du football. Moi, enfin, Uli Stein qui traite son sélectionneur Beckenbauer de guignol et qui est forcé de rentrer aussi.
Oui, mais non,
moi, en 86, ça me plaît beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est très, très différent. Mais en tout cas, voilà, en 94, au Cotton Bowl de Dallas, Effenberg fait un doigt d'honneur aux supporters allemands, était exclu de la National Mannschaft. Et comme on est demain, un super documentaire, je pense, par rapport au trailer que j'ai vu, qui va nous parler de ça pour revisiter l'histoire de la sélection allemande pour ceux qui ont les chaînes allemandes.
C'était la minute historique de Paulo Breitner à une semaine un peu plus du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Dans un instant, on va parler Mercato, Gordon au Barça, quelle destination pour Ryan Alvarez, Konaté, Rabiot, Diomandé, la pépite ivoirienne qui affole l'Europe, bien sûr, Ibrahima Konaté également son avenir, je l'ai dit. On revient dans un instant avec les 4 drôles de dames sur RMC, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin. Avec les 4 drôles de dames, Julien Laurence, Paulo Breitner, Daniele Manoucia et Edgar Grollo. On est ensemble jusqu'à 22h avant une deuxième heure, un spécial Coupe du Monde. Et puis on a pas eu le temps de le faire la semaine dernière. Vos 11 de vos 4 championnats, ils sont attendus. On les mettra également sur les réseaux sociaux. Alors, Mercato qui a commencé de manière spectaculaire il y a quelques jours seulement avec l'annonce de l'arrivée d'Anthony Gordon de Newcastle au FC Barcelone. 70 millions d'euros plus 10 de bonus. Première secousse du mercato estival avant même le début de l'été. Tiens, Edgar, question que je te pose, hein. Comment on a réagi à Barcelone? Est-ce qu'on se dit que c'était la priorité ou pas du tout de lâcher 80 millions d'euros pour Anthony Gordon? Sachant, précision importante quand même, que ça y est, hein, il n'y a plus de restrictions pour recruter côté barcelonais.
Oui, notamment que le plafond salarial, par exemple, pour la prochaine saison, a nettement augmenté. 81 millions d'euros de plus pour tout l'effectif, que Lewandowski part. Donc ça aussi, ça t'enlève un poids au niveau de la masse salariale. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Maintenant, est-ce que c'était la priorité numéro 1? Je pense pas. Je pense que la priorité numéro 1, c'est évidemment de remplacer Robert Lewandowski avec un vrai numéro 9. Maintenant, Gordon, qui peut aussi, je parle sous le contrôle de Julien, évidemment, mais jouer à plusieurs postes en attaque et notamment devant, mais qui est avant tout plutôt côté gauche. Je pense que c'est une recrue qui a du sens. Forcément, même si les restrictions de recrutement pour le Barça sont plus légères, on va dire, que sur les dernières années, ça veut pas dire qu'ils ont un budget illimité. Ils doivent cibler des profils et choisir. Et je pense que s'ils choisissent Gordon, c'est aussi qu'il y a une vraie volonté d'Hansi Flick. Et je pense que s'il y a une vraie volonté d'Hansi Flick, c'est parce que Gordon aussi, c'est quelqu'un qui peut leur apporter dans les efforts défensifs, parce que Hansi Flick a répété toute la saison que les problèmes défensifs qu'avait parfois le Barça venaient aussi des attaquants et venaient aussi des moments où le pressing était moins bien organisé, était moins bien fait et moins bien suivi par les différents joueurs, moins harmonieux. Et je pense que ça veut dire qu'il compte aussi sur cet aspect-là du jeu d'Anthony Gordon, c'est-à-dire les efforts défensifs. Et donc je pense qu'il valorise beaucoup ce côté-là chez Gordon. Et après, c'est aussi qu'ils ont dû avoir une opportunité de marché où ils ont vu qu'il y avait cette recrue qui était faisable, qui est, je pense, au-dessus d'un joueur comme Marcus Rashford. Ça s'est fait assez vite, ça a surpris par la vitesse du transfert. Maintenant, c'est quelqu'un évidemment qui peut apporter à cette équipe. Et on a vu aussi tout au long de la saison la volonté d'Hansi Flick d'avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, d'avoir des joueurs aussi qui des zones qui sortent de là où ils sont alignés dans le 11 sur le papier, comme Lamine Yamal, comme Rafinha, qu'on a vu souvent entrer aussi dans l'axe. Et je pense que cette recrue là va aussi en ce sens, voilà, parce qu'elle va donner encore plus de possibilités à Hansi Flick.
Si Gordon arrive, ça veut dire que Rashford ne sera pas conservé. Il appartient à Manchester United, je rappelle.
En tout cas, en termes de profil, ça me paraît compliqué, très compliqué. Quand même. Je pense que c'est clairement le remplaçant et un remplaçant plus. Hein. C'est au-dessus sur le papier aujourd'hui que Marcus Rashford, ou en tout cas, c'est plus bling-bling et c'est sa valeur marchande est largement supérieure à Marcus Rashford.
Ouais, il n'a pas très envie de retourner en première ligue, j'ai l'impression, Julien, Marcus Rashford. Il aurait surtout voulu rester à Barcelone. Est-ce qu'il va revenir à United ou être vendu? Qu'est-ce qu'on dit en Angleterre concernant son avenir?
C'est une bonne question. Alors lui, oui, aurait voulu rester. Je crois qu'il est d'ailleurs déçu que ça se soit pas fait. Parce que finalement, même sans faire une saison extraordinaire, c'est plutôt une bonne saison, même dans un rôle un peu de joker de luxe ou de remplaçant de luxe, on va dire, entre guillemets. Après, le problème de Marcus Rashford, c'est qu'il gagne 350 000 euros par semaine. Donc à un moment, il n'y a pas non plus beaucoup de clubs dans le monde qui peuvent se permettre de payer quelqu'un encore sous contrat 350 000 euros par semaine. Donc à un moment, c'est compliqué pour lui aussi, surtout s'il ne veut pas rester à Manchester United, parce que je pense que dans le cas de 3-1 de Carrick, il a peut-être plus de place à gauche qu'un Matheus Cunha par exemple, qui est pas du tout un joueur de côté, même s'il peut le faire et comme c'est un bon joueur, bah ça passe. Mais je sais pas si Carrick veut le garder même, et encore moins à ce prix-là. Donc on verra, mais ça peut se compliquer un peu pour Marcus Rashford, ou alors il peut être réaccueilli bras ouverts par Carrick par exemple et Manchester United, et pourquoi pas dans un sens avoir eu sa carrière se voir sa carrière se relancer à Barcelone et repartir, on va dire, sur des bases plus fraîches, on va dire, plus je sais pas comment on dit en français, mais tu vois, un fresh start quoi,
plus saine quoi, un nouveau départ,
voilà
quoi.
Exactement.
Bon, voilà pour Gordon
et
également,
mais juste pour finir sur Gordon,
qu'est-ce qu'il va réussir à Barcelone ou pas?
Alors moi je sais pas, c'est 3 buts, c'est 6 buts en championnat cette saison, dont 3 sur penalty. Hein. Donc c'est à dire que j'ai plein de défenseurs chez moi qui ont marqué plus que Anthony Gordon, qui a joué 26 matchs de championnat. Après, là où Elgar a tout à fait raison, c'est sur le pressing, il est monstrueux. Il est monstrueux, d'ailleurs il a parfois même pris des cartons rouges parce qu'il pressait tellement, il taclait dans tous les sens, il courait derrière le ballon autant qu'il pouvait. Donc ça, à ce niveau-là, ils seront pas déçus, c'était son rêve absolu. D'ailleurs, il a parlé dans un espagnol plutôt bon, j'ai trouvé, Edgar, lors de sa présentation. Ça c'est très bien, il va
vite. Ouais, ça a été très apprécié qu'il fasse l'effort.
Ouais, j'imagine, ouais. Et puis je pense qu'il était vraiment, tu sais, il était vraiment honnête en disant que c'était son rêve depuis toujours, un peu comme Kylian d'ailleurs. Donc il a appris l'espagnol dans l'optique d'un jour, il espérait jouer au Barça et en Espagne, quoi. Donc bravo à lui, mais après il a quand même beaucoup de travail à faire devant le but notamment, parce que la saison dernière c'était quand même très laborieux.
Bon, voilà pour oui, quelqu'un voulait réagir?
Ouais, enfin je crois, à ma connaissance, mais il faudrait vérifier si nos auditeurs sont des spécialistes de ça, le dernier anglais à part Rashford, c'était pas Gary Lineker à Barcelone, donc ça commence à dater. Donc le profil de la nationalité, moi, me perturbe toujours un peu, parce qu'il y a des ADN dans les clubs quand même. Et à ma connaissance, alors à l'époque en plus c'était Venable, je crois, le coach de Barcelone.
Terry Venable.
Il y avait quand même une filière, et c'est pas tout à
qu'est-ce
fait.
Qu'est-ce qui te perturbe, Polo? Qu'est-ce qui te perturbe? Pardon, finalement? Qu'est-ce qui te perturbe à l'heure de la mondialisation?
Ben,
même les Anglais partent.
C'est pour ça.
C'est quoi?
Non, c'est que je suis pas persuadé qu'il y a des nationalités qui réussissent partout.
Ah bon?
Je suis pas persuadé qu'on réussisse à Barcelone en venant de première ligue, par exemple, par rapport au style de jeu.
Très intéressant,
jeu,
ça. Ouais, rappelez-vous, ouais. Michael Owen au Real Madrid, ouais. Même Gareth Bale, tout ça, c'est pas toujours garanti.
Tu considères que David Beckham a plutôt réussi au Real, plutôt réussi quand même, non?
Ouais, mais on a plein de contre-exemples aussi pour aller dans le sens de ce que dit Paul.
Ouais.
Surtout chez les Anglais, qui n'aiment pas partir de leur île de toute façon. Donc.
Ouais. Et j'ai l'impression, Julien, quand même, qu'il y a une tendance sur les dernières années où on voit quand même de plus en plus de joueurs anglais. J'ai eu la sensation, en tout cas, hein, de voir plus de joueurs anglais s'exporter. Alors c'est pas aussi massif, par exemple, évidemment, c'est très loin des standards français ou même d'autres pays. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voyait déjà encore moins il y a 10 ans, peut-être.
Ouais, mais après ils ont enfin compris que ça, c'était très bénéfique d'aller à l'étranger, de connaître d'autres choses, d'autres cultures de foot, d'autres pays de foot, parce que pour trop longtemps ils sont restés auto-centrés sur leur première ligue à eux, donc c'est enfin la bonne chose, et c'est ça a démarré d'ailleurs par les jeunes joueurs qui sont partis un peu partout à droite à gauche, parce qu'ils considéraient qu'ils avaient moins de possibilités de jouer en première ligue dans les grands clubs anglais, et ça part de là, et puis après d'autres ont suivi.
Ou alors des très gros clubs type le Real, hein, qui arrivaient à shipper des stars au club anglais. Bah, McManaman a plutôt réussi au Real, par exemple, Steve McManaman. C'était plutôt correct, également. Après, j'ai pas pléthore d'exemples, hein. Si on parle de l'axe anglo-espagnol, en Allemagne, évidemment, il y a un exemple, mais ça a réussi plutôt. C'est Harry Kane, mon cher Polo, hein. On a eu Jude Bellingham aussi, plutôt.
Peu anglais, comme dit Daniel.
Bien sûr, Bellingham.
Jude Bellingham.
Bon, Alexander exactement. Arnold, c'est pas encore ça pour l'instant.
Toujours pas, non. Pour l'instant.
Mais tu vois, Michael Owen, par exemple, je sais qu'on n'a pas trop le temps, là.
Vas-y.
C'est fascinant. Non, mais c'est fascinant parce que il s'est jamais fait à la vie madrilène. Alors, faudra m'expliquer.
Oui, alors, c'est ça la raison, peut-être.
On a souvent eu des débats avec lui, puisqu'on travaillait ensemble à la télévision anglaise. On lui disait, mais comment tu ne peux pas t'adapter à la vie madrilène? Enfin, c'est impossible, tu vois, même pour un anglais. Comment tu peux pas aimer une ville où t'as quand même beaucoup plus de soleil que chez toi, où la nourriture est bien meilleure que chez toi? Bon, la musique, si t'as pas envie de l'écouter, bah, mets tes musiques anglaises chez toi, mais et pourtant, il a vécu à l'hôtel. Tout son temps au club, il a même jamais vécu dans une maison. C'est pour vous dire à quel point le gars, il se sentait vraiment pas bien. Au Real Madrid, t'es ballon d'or. Tu joues au Real Madrid, t'habites à Madrid, t'as un salaire monstrueux, et pourtant, t'arrives jamais à t'adapter à cette ville-là. Moi, je comprends pas, quoi. Mais après, bon, des fois, il fait des trucs un peu bizarres.
Ah oui, c'est vrai, exemple.
Et par exemple, il aime pas le cinéma, il regarde jamais des films.
Ah oui, d'accord, intéressant ce thème-là, d'accord, ok. Pourquoi
il
pas,
a vu 5 films dans sa vie, donc à un moment.
Mais qu'est-ce qu'il anime, ce garçon, Michael Owen, là? C'est...
Les chevaux. Il adore les chevaux. Non, mais il est très sympa, hein.
Ah oui,
il
mais je beaucoup avec pas.
Lui. Non, mais c'est vrai, beaucoup de 5 films et c'est Kurosawa, ça va, quoi.
C'est très sélectif, ouais.
C'est toujours pareil,
c'est un l'avion, tu vois.
D'accord, maman, j'ai raté l'avion le 1, le 2, quoi. J'ai raté l'avion. Et puis après.
Et encore, ouais.
Oui,
encore.
D'accord.
Mais non, mais tu vois, c'est fascinant. Mais... Alors, c'est pas sa personnalité, en fait. Il aurait jamais dû bouger de l'Angleterre. Lui, il était pas fait
c'est
comme ça.
C'est un casanier, quoi. Voilà, beaucoup. C'est ça.
McManahan, ouais. Par exemple, aujourd'hui, il habite en Espagne. Il adore l'Espagne. Il est plus espagnol que Scouser, même. Il adore ça. Et puis, tu le vois, on était encore ensemble à la finale, parce qu'on, encore une fois, on travaillait pour la même télé aussi. Il était habillé, mais genre, il était à Madrid, quoi. C'est fascinant à voir comment lui, en revanche, l'inverse d'Owen, s'est fondu complètement dans la vie. Il a épousé la vie espagnole et madrilène encore plus, tu vois.
Intéressant. Très bon débat à mener, à prolonger, bien sûr. Si vous avez des idées pendant la pub, hein, de joueurs anglais qui ont vraiment réussi à l'étranger, n'hésitez pas à nous les faire partager. Avant qu'on continue sur le mercato, qu'on parle de Vuskovic avec Polo, de Ibrahima Konaté avec Julien dans un instant. Deuxième minute de la soirée, elle est espagnole. On envoie la musique, s'il vous plaît.
Gloria, la gloire du duo Los Dioses. Ils viennent de Malaga. Sur la pochette de leur nouvel album, il y a un des deux qui porte le maillot de Malaga. Dans la chanson qu'on écoute, ils parlent de Malaga. Et donc ça veut dire qu'ils vont stresser. Ils vont stresser dans les prochains jours, puisque Malaga va jouer les playoffs pour monter en Liga. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces playoffs? Déjà le format, 4 équipes, demi-finale aller-retour, finale aller-retour aussi. Et parmi ces équipes, donc, celle avec l'histoire récente la plus importante, c'est Malaga qui a terminé 4e de saison régulière, quart de finaliste de Ligue des Champions en 2013 avec Toulalan, Isco, Montréal, Joaquin, on se souvient de cette génération-là. Et depuis, plein de problèmes financiers qui ont réduit les ambitions du club. Ils sont descendus en 2018, puis passés par la 3e division en 2023-2024. Et dans les prochains jours, ils peuvent retrouver leur vraie place, c'est-à-dire la Liga, puisqu'au classement historique du foot espagnol, c'est le 20e club du pays. Ils vont jouer contre le 21e club historique du pays, Las Palmas, club des îles Canaries, qui essaie de remonter tout de suite. Vous connaissez leur meilleur buteur, hein, vous le connaissez tous, c'est Ressé, ancien joueur du Real et du PSG. J'aurais pu mettre l'une de ses chansons aussi, mais je voulais vous épargner ça. Et puis l'autre demi-finale, ce sera entre le 3e et le 6e, c'est Almeria contre le CD Castellón. Les Andalous d'Almeria arrivent peut-être en tant que favoris, puisqu'ils ont déjà ils terminent 3e, ils ont le meilleur buteur du championnat, Sergio Arribas, 25 buts. Ils ont le soutien en plus de Cristiano Ronaldo qui détient 25% du club. Et en face, ils vont retrouver l'équipe qu'on attendait le moins à ce niveau-là en début de saison, le CD Castellón. C'est un club de la région de Valence, collé à Villarreal, qui n'a plus disputé la Liga depuis 1991. Son effectif vaut deux fois moins que celui d'Almeria. C'est que le 14e effectif de Segunda en termes de valeur marchande. Donc c'est déjà une saison réussie pour eux. Voilà, rendez-vous samedi pour le début des playoffs.
Malaga, l'ancien club de Jérémy Toulalan, bien sûr, qui ne doit pas nous écouter ce soir, puisque
il leur aura rendu visite il y a quelques mois. Il est toujours attaché au club.
Jérémy Toulalan, d'accord, ok.
Ouais, ouais.
Intéressant.
Bon, en tout cas, il était invité du club. Il a rendu visite. Il a serré la main de tous les joueurs dans le vestiaire, etc.
Voilà pour ta minute, mon cher Edgar. Dans un instant, la suite, c'est notre page mercato européen, bien sûr. On va parler des coachs aussi, Allegri, Iraola, Slot, Hutter, avec les quatre drôles de dames. Reste avec nous, RMC 20h40.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain. Avec les quatre drôles de dames, on en sort jusqu'à 22h. L'After prend le relais comme tous les soirs de 22h à minuit en direct de Valenciennes. Dernière tournée des 20 ans de l'After. Alors évidemment, on a beaucoup de propositions, les amis, sur le chat YouTube des joueurs anglais qui ont réussi à l'étranger. Bien sûr, le Bicéleste nous dit comment oublier Waddle à Marseille, notamment. Moi, j'avais noté également de mon côté Glenn Hoddle à Monaco, quand même, si on compare. John Collins aussi à Monaco, d'ailleurs, pour ce qui est de la France.
John Collins, pas anglais, attention. Hein.
Écossais.
Très important.
Oui, mais. Voilà, très différent.
Non,
pour toi, très différent. Rien à voir pour toi, très différent.
Par exemple, les Écossais s'exportent beaucoup plus dans le sens où dans leur championnat, eux, si tu veux, surtout maintenant, encore plus qu'à l'époque de John Collins.
Oui, obligé de bouger, quoi.
Ouais. Voilà, tu vois. Mais un Chris Waddle, par exemple, quand Chris Waddle vous raconte les histoires de son arrivée à Marseille, c'est fascinant. Mais Chris Waddle, à l'Euro 2016, par exemple, on était en tribune de presse pour descendre sur le terrain parce qu'on avait un truc à faire pour la télé sur le terrain. Mais sincèrement, j'ai cru qu'il allait jamais y arriver. Tellement. Au Vélodrome, avant le France-Allemagne, la demi-finale au Vélodrome. Sincèrement, je vous jure, j'ai cru qu'il allait jamais y arriver. C'était impossible. Il pouvait pas faire un pas sans qu'on l'arrête, qu'on lui parle en français, alors qu'il comprend rien en France. Enfin,
oui,
il n'avait jamais appris français, vraiment.
Il est légendaire en France, bien sûr.
Non, mais ouais,
à Marseille, surtout. Oui.
Nico, on était en 2016 et il est parti en 93.
Oui, parce que
92.
Oui, parce qu'on le voit plus, on n'a plus de nouvelles. Et quand il réapparaît, c'est une apparition, quoi.
Mais je vous jure, c'est le passé incroyable qui à voir.
Ah oui.
Incroyable. Pour tous les Marseillais qui étaient là ce jour-là, qui nous écoutent, ils sauront très bien ce que je raconte. C'était hallucinant, sincèrement. Même lui était choqué. Hein. Même lui était choqué.
En Italie, il y a Rush à la Juventus, mais juste une année.
Qui après, je n'ai pas entendu.
Jan Rush,
bien sûr. Ouais,
dans les années 80. Et après, il y a eu Gascogne à la Lazio qui a.
Dans les années 90, il y a toute la génération qui va, les Plates, les Gascogne et tout ça.
Ouais.
On a eu Joe Cole à Lille, sans réussite, notamment. Pourtant, il n'était pas très loin de chez lui.
Joey Barton
plutôt réussi. Joey Barton à Marseille. Alors.
Il y a un Anglais qui a pas mal réussi à Hambourg dans les années 80, quand même.
Vas-y.
Aussi, avec les cheveux longs. Bah, pas mal, ouais. C'est vrai.
Vas-y, mais attends. Mais non, mais je l'ai même pas. Attends, c'est une catastrophe.
Bah, voilà. Là, toi,
oui,
franchement,
ça, oui, ça, c'est juste.
Anglais, ça, c'est juste. Hambourg, cheveux longs.
Bouclé, on va dire. Très long.
Ballon d'or, en plus.
Double ballon d'or,
même, ouais. Elle prend ta retraite.
Non, c'est terrible. Là, c'est terrible.
Va te reposer, t'es fatigué. Sur une plage bordelaise.
Surtout, ne le dites pas. Hein. Laissez-moi dans la mouise. Hein. Allez-y.
Bah oui.
Bon, bah écoutez. Qu'est-ce qu'il gagne?
Bah oui.
Qui gagne. Voilà. Très bien.
Sinon, on a alors Grève au Bayern. Sauf que c'est pas un véritable Anglais, puisqu'il a été formé en Bavière, en fait. Donc, c'est.
Puis les Canadiens, surtout, à la base.
Ah oui, au départ, il est Canadien, en plus.
Ah, mais voilà, ouais. Polo, voilà, boum.
Alors, Trevor Stevens, voilà, tu vois, il y a des joueurs.
Lui, Ibrahima Konaté va quitter l'Angleterre, mon cher Julien, puisqu'on en parlait. Ou pas, d'ailleurs, hein, c'est officiellement terminé avec Liverpool, qu'il a annoncé aujourd'hui. Konaté, c'est 5 saisons, un titre en Premier League, une Cup, 2 Coupes de la Ligue Anglaise, il est en fin de contrat. Pourquoi on n'a pas trouvé d'accord? C'est une question d'argent, d'oseille seulement, mon cher Julien, ou l'envie de voir ailleurs un nouvel horizon pour Ibrahima Konaté?
Non, je pense que l'argent, oui, forcément, a joué un rôle dans ce revirement. Parce que rappelez-vous, il y a quelques semaines, et nous sur RMC avec Fabrice Hawkins, on l'annonçait aussi. D'ailleurs, même Ibrahima lui-même avait été plutôt clair en disant que l'accord était quasiment fait et que ça allait se faire. Et pourtant, ça s'est pas fait. Donc, je pense que oui, il y a eu un moment un problème dans les négociations qui ont duré pourtant longtemps entre son entourage et le club aussi. Je pense qu'il y avait une volonté chez Ibrahima et qui est tout à fait compréhensible de se sentir voulu par le club. C'est-à-dire que tu es devenu un joueur important, tu as 27 ans maintenant, tu es arrivé très jeune d'Allemagne, tu as progressé, même si la saison est un peu compliquée, mais elle est compliquée collectivement, pas juste individuellement pour Ibrahima Konaté, la saison à Liverpool. Elle est un peu plus compliquée, mais il y a quand même 2 ans, vous étiez champion, tu as été très bon. Et je pense qu'il a peut-être pas toujours non plus ressenti ça. Et du côté du club, on dira peut-être qu'il avait des demandes trop élevées aussi. En tout cas, il y a eu un problème quelque part, ça c'est sûr, parce qu'il y a eu un moment où lui voulait rester, le club voulait qu'il reste, et pourtant ça s'est pas fait. Donc même l'arrivée de Jérémy Jacquet, je pense, même si elle est très prometteuse pour Liverpool et ils sont très contents de l'avoir, et je pense qu'ils ont fait un très joli coup. Mais malgré ça, il y avait aussi une volonté double que Ibou reste au club. Et malheureusement, ce sera pas le cas.
Ce sera pas le cas pour Ibou Konaté. On va attendre de savoir où il va atterrir. Très demandé, bien sûr, y compris chez toi au Real, peut-être aussi, mon cher Edgar, hein, pour Ibrahima Konaté. Hein. C'est partie des pistes possibles.
Oui, alors, en tout cas, sur le papier, je pense que n'importe quel défenseur central qui sait à peu près jouer au football, ça se prend aujourd'hui au Real Madrid. Et donc, évidemment, lui. Non, mais c'est clairement, il pourrait avoir le niveau. Maintenant, j'ai l'impression qu'on parle un petit peu moins de cette piste maintenant que, par exemple, il y a un an où c'était un nom qui revenait beaucoup plus.
Daniel, quel sera le dossier chaud de l'été chez toi dans les prochaines semaines, là, concernant le mercato?
On est en train de parler des Rabiot, on est en train de parler de beaucoup de Milan, surtout parce qu'il manque tout, en gros, à Milan. Il manque les directeurs sportifs, les directeurs techniques. L'entraîneur, on a parlé de Iraola, et même si, voilà, c'était un peu bizarre parce que un des meilleurs entraîneurs sur le marché, pourquoi il devrait aller à Milan? En fait, il n'est pas allé à Milan. Là, il part de Ragnik, qui c'est quand même un entraîneur impliqué.
Oui, bien sûr.
Oui, il a la Coupe du Monde à faire avec l'Autriche. Mais il part de lui comme un rôle, plénipotentiaire, on dit en Italie. Il a beaucoup de pouvoir, plénipuissant, je ne sais pas comment on dit en français. Mais on part de lui avec, sur les bancs, après, un de ses élèves, peut-être Mathias Gesle, que c'est l'entraîneur de l'Al Ahly. Glasner, on parle aussi d'Olivier Glasner.
Mais qui va décider? J'ai l'impression que c'est Ibrahimovic qui va décider, ou qui va décider du nom du futur entraîneur du Milan, quoi. Parce qu'il n'y a que lui qui peut diriger aujourd'hui.
Voilà, oui, ils sont restés lui et Cardinale, et après il y a d'autres figures, mais moins importantes. Mais surtout, on ne comprend pas Aujourd'hui, là, hier, c'est pas, non, aujourd'hui, le Corriere della Sera, ils ont même fait un article pour dire que la fédération, la FIGC, la fédération italienne, elle a envoyé quand même un mail pour rappeler au Milan que dans toute cette chose à faire, il faut aussi inscrire l'équipe au championnat avant le 16 juin. Comme s'ils allaient oublier de faire ça. On sait pas si c'est vrai. En tout cas, le Corriere della Sera, le plus important journal italien, il a rapporté cette nouvelle. Donc, on comprend pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Ibrahimovic, il va partir, il va faire le commentateur de la Coupe du Monde, il y a pas longtemps. Dans pas longtemps. Donc, c'est vraiment un autre maire. Et il y a pas de temps à perdre aujourd'hui. Léao, il a fait un post sur les social networks qu'il allait partir. La société apparemment elle s'est énervée. Donc il y a quand même de mouvement, mais c'est pas un mouvement dirigé par le Milan lui-même. Donc ça devient un peu chaotique et ça devient un peu problématique lorsqu'il y a d'autres équipes qui ont bougé vite. Deux fois bien, deux fois mal, on peut en parler. Naples, Allegri, Sarri, l'Atalanta, ou même Gattuso à la Lazio, et je trouve ça lunaire. Mais au moins, ils ont fait quelque chose. Tedesco, Domenico Tedesco à Bologne, c'est presque fait. Grosso à la Fiorentina, ils ont tous changé. Mais Milan, il reste, tu sais, les jeux avec les chaises musicales
exactement.
Voilà, on va dire il y a plus de fesses que des chaises là. Il y a plus de chaises que des fesses des fois, on dit aussi. C'est-à-dire il y a plus d'équipes.
Pour le Milan, ça serait extraordinaire parce que ça serait la deuxième. Si Ralf Rangnick arrivait, parce que ça serait la deuxième fois qu'il serait un candidat là-bas, et que la première fois déjà, alors que lui voulait tous les pouvoirs, c'est Maldini qui ne voulait pas. Et ça serait quand même extraordinaire parce que ça voudrait dire que ça n'a pas fonctionné. Le côté vieille école italienne avec Maldini, et que finalement en urgence on doit récupérer Ralf Rangnick, qui rappelons-le est en fin de contrat après la Coupe du Monde fin juillet si je me rappelle bien, et s'il arrive en plus, non, parce que lui en fait Rangnick normalement il veut plus entraîner de club, mais il a ses idées, on le sait, et s'il amène avec lui Matthias Hiesel, qui est quand même l'un des grands espoirs du football allemand, qui est passé par Liefering évidemment, puis Salzbourg, et débarque à Milan pour mettre en place ce qui s'est passé au Hoffenheim et au Leipzig, c'est génialissime au niveau du projet. Mais alors pour la culture italienne, attention, c'est pas tout à fait même chose. Ça peut aller dans le mur directement. Parce qu'il faut que la direction soit d'accord. Il faut que tout le monde, un peu comme Arrigo Sacchi avec Berlusconi à l'époque, lorsque les joueurs ont commencé à dire, Sacchi, il nous gonfle, quoi. C'est-à-dire, si la direction dit pas, on fait comme ça, et en plus, c'est du boulot sur plusieurs années, ça va dans le mur directement. Hein. C'est quand même assez, mais bon, c'est un scénario, hein. Pour moi, là, c'est dans de l'Uchronie, mais si ça arrive, je trouve ça assez exceptionnel et ça sera peut-être le plus grand projet européen, en tout cas le plus intéressant à mes yeux à suivre.
Non, mais alors c'est ça qui n'a pas marché la première fois. Après, c'est pas Maldini qui a fait faillir le projet Milan, parce que lui, il a été limogé il y a quelques années. Donc les supporters de Milan, ils regrettent surtout Maldini. Mais effectivement, la question, c'est s'il n'a pas marché parce qu'il avait trop de questions, il avait trop de prétentions, on va dire, la première fois.
C'est normal.
Oui, non, mais je veux dire,
les gens connaissent pas Rangnick, mais c'est quelqu'un de très spécial. Et si on me dit non, à la place,
je suis content. Hein.
Rangnick, mais... il s'occupe des chiottes jusqu'à les arrêts de jeu, les pénalties dans les arrêts de jeu. Il y a tout. Hein. C'est quelqu'un qui met son système.
On suivra ça dans les prochaines heures, même, hein, car ça va bouger du côté du Milan. Daniel, tu nous tiens au courant, bien sûr. On fait une pause, on revient dans un instant. On va prolonger et finir sur le mercato, parler des coachs, Arne Slot notamment, Iraola pour le succéder, Pierre Sage, Crystal Palace. Est-ce que c'est chaud? Là aussi, on va en dire un mot évidemment. Et puis à 18h, qui revient à l'Eintracht Francfort. Reste avec nous dans un instant, la deuxième heure avec les drôles de dames. Sur RMC, à tout de suite.
Génération After.
RMC.
Moi, je pense qu'on n'a plus de grands artistes. Il n'y a plus de Salvador Dali. Il n'y a plus de Andy Warhol. Je pense que les footballeurs aujourd'hui, c'est les grands artistes de cette société.
Non, mais j'ai peut-être dansé sur Coldplay, mais je ne devais pas être agent.
Il ne faut pas attendre. Toujours 0-0 dans cette finale de la Ligue des Champions. Ça va être tiré de la droite vers la gauche. C'est con, il a tout loupé. Il a tout loupé. Mais non, pas toi, Julien.
Génération After.
Nico. Nicolas Jamin.
Avec les quatre drôles de dames, Julien Laurence, Paulo Breitner, Edgar Grelot, Daniel Manoussia. On est ensemble jusqu'à 22h, vous le savez. Alors on termine sur le mercato, car il se passe beaucoup de choses. Hein. C'est de l'actualité et pas forcément des projections. Arne Slot, c'est terminé aussi, Julien. C'est une des infos du week-end importante. Certains pensaient qu'il allait quand même rester, malgré sa saison ratée à la cinquième place, terminée à la cinquième place de Première Ligue. C'est terminé pour lui. Le successeur, en revanche, n'est pas connu officiellement, Julien. Iraola est le grand favori, bien sûr.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que les négociations ont commencé déjà avec Anthony Iraola et ça, je ne vois pas pourquoi ça se ferait pas. Arne Slot, limogé, ça fait plusieurs semaines maintenant que je disais que je comprenais même pas pourquoi il était encore au club et pourquoi il allait rester la saison prochaine quand on nous disait que qu'il allait rester. J'ai pas trop compris, je comprenais pas, je l'avais déjà expliqué. Pour moi, c'était récompenser la médiocrité que de le laisser en place. Je comprends très bien qu'il avait gagné le titre de champion sur sa première saison. On va pas non plus revenir sur sur le contexte de cette saison-là, notamment l'après Klopp et le fait qu'il y avait eu aucune recrue l'été où Slot arrive en fait. Donc c'était encore vraiment l'équipe de Klopp. Et pour moi, à part aller jusqu'au mois de janvier, ça tout allait très bien. Et à partir de janvier, le reste, tout s'est compliqué en fait. Donc pourquoi garder quelqu'un comme entraîneur quand il a finalement réussi 6 mois sur 2 ans? Pour moi, ça n'avait aucun sens. Et je suis content sincèrement, pas simplement parce que ça va dans le sens de ce que je disais dans l'émission depuis maintenant plusieurs semaines, et parce que je trouve que Liverpool a pris la bonne décision.
Voilà. Enlé Vincent et Iraola qui devrait arriver également. Ça peut matcher. Iraola, bon, qui a réussi avec Bournemouth, bien sûr, entraîneur en vogue. Tu vois le mariage réussi, toi, a priori?
Alors moi, je pense que c'est un très bon coach qui va devenir un très grand coach quand il sera dans un grand club, ce qui va être le cas là. Il aura peut-être besoin d'un petit peu de temps pour se familiariser aussi avec l'environnement, ne serait-ce que la pression déjà, parce qu'à Bournemouth, comme au Rayo avant qu'il vienne en Angleterre, la pression, ça n'existait pas pour lui. Il n'y avait pas vraiment d'attente ou quoi que ce soit dans des clubs comme ça. Là, en revanche, à Liverpool, c'est chaque match que tu dois gagner. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec Bournemouth ou le Rayo Vallecano. Donc, ce sera à lui de s'adapter très vite en termes d'état d'esprit. Il est beaucoup plus proche de Klopp que Slot ne l'aurait jamais été, déjà. Quand tu penses que la saison dernière, le Liverpool sous Slot avait couru moins que l'adversaire dans 90% de ses rencontres, pour une équipe comme Liverpool dans un club pareil, c'est inadmissible et inacceptable. Ce ne sera pas le cas avec Iraola. En revanche, il y a toujours le même problème de qu'est-ce qu'on fait avec Wirtz, Isak et Kitike quand il reviendra. Comment on remplace ça là? Donc, et le recrutement de cet été va être très important, et surtout ses premières décisions à lui sur comment organiser cette équipe-là. On sait qu'il a l'habitude de jouer en 4-2-3-1, c'était le cas à Bournemouth, je vois pas pourquoi il va changer maintenant. Mais où est-ce que tu mets toutes ces pièces-là du puzzle dans son puzzle à lui? Ce sera très intéressant à voir.
Bon, l'incompréhension évidemment, c'est le Xabi Alonso qui n'est pas entraîneur de Liverpool cette saison prochaine. C'est joué à quelques jours près. Est-ce que ça aurait été possible si le timing avait été différent, si Slot avait déjà été évincé il y a 2 semaines avant même la fin du championnat, en tout cas annoncé comme tel? Ça on saura jamais, Julien. Sincèrement, on saura jamais. Xabi Alonso serait venu et si Liverpool l'aurait choisi aujourd'hui réellement, quoi. C'est ça.
Non, mais on en saura sûrement lors de la première conférence de presse, pardon, de Xabi Alonso comme entraîneur de Chelsea, parce qu'on va forcément lui poser la question.
Après, il répondra ce qu'il voudra, bien sûr.
Oui, bien sûr, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a eu un problème de timing. Tu l'as très bien dit, Nico. Je pense que le procédé du limogeage de Slot qui part du club de Liverpool avec Richard Hughes et Michael Edwards, qui sont en charge du sportif, on va dire, entre guillemets, pour simplifier, doit ensuite aller aux États-Unis chez les propriétaires de FSG avec Mike Gordon, et donc il y a aussi beaucoup de gens qui décident, et ça prend du temps et c'est un peu compliqué et tout ça, et je me demande si c'est pas un petit peu ça qui a fait aussi que à un moment tu devais laisser Slot en place pour absolument accrocher le top 5, tu l'as fait, et puis après ça a pris un petit peu de temps, et donc forcément t'as raté Xabi Alonso qui, lui, rappelez-vous, avait déjà été annoncé par Chelsea alors que la saison n'était pas encore terminée, ce que Liverpool n'aurait pas pu faire vraiment. T'aurais risqué de mettre en péril la fin de saison et le fait de ne pas accrocher la Ligue des Champions peut-être. Donc il y a tout ça qui fait que ils ont peut-être raté Xabi Alonso, pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce que le timing effectivement n'était pas adéquat.
Alors voilà pour les coachs. En Allemagne également, il y a un retour chez toi, Polo. 5 ans après, à 18h, retrouve l'Eintracht Francfort. C'est annoncé ces dernières heures. 5 ans, il avait fait quoi? 3 saisons sur place, 18-21, une demi-ligue Europa. Il avait été l'entraîneur de l'année, hein, 18-19 par les lecteurs de Bild notamment. Comment tu analyses ce retour? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Eintracht, ce retour d'Adi Hütter?
Alors c'est intéressant parce que lorsqu'il a fait la conférence, il a été présenté évidemment ou représenté et il y a eu des questions des journalistes et il y a une journaliste qui n'était pas tellement finaude, je trouve, lui a dit lorsque vous êtes arrivé en Bundesliga, vous étiez un no name. Aujourd'hui, vous avez réussi votre demi-finale d'Europa League avec Francfort, vous avez été à Monaco, vous revenez comme ça alors que le club a beaucoup changé, a aussi gagné une Coupe d'Europe notamment en 2022. Comment vous percevez, comment vous voyez votre retour? Je trouve que cette question est assez limite au niveau du respect par rapport à qui est Adi Hütter, qui avait réussi en Autriche et en Suisse avant d'arriver en Bundesliga et qui était l'une des personnes très cotées. Mais lui, il explique qu'en fait, il est toujours resté en relation en fait avec Francfort et notamment avec Markus Krösche. Moi, je suis jamais un grand fan des retours comme ça. Maintenant, on est dans une telle situation à Francfort que l'objectif est très simple. Allez, bon, déjà, il va y avoir une réduction de la voilure très claire à Francfort avec quelques ventes qui vont rapporter un paquet de pognon du côté de Francfort, mais surtout il va falloir à nouveau stabiliser l'équipe avec un gros pressing, on va dire l'école Red Bull qui est très classique. Donc ça, c'est ce qu'il sait très bien faire. En plus, le fait de choisir Adi Hütter, qui n'est pas quelqu'un de forcément très souple systématiquement avec certains joueurs, voir son passage à Mönchengladbach et avec Thuram par exemple, fait que il y a peut-être pas qu'un problème d'entraîneur à Francfort et que c'est peut-être justement une façon de nettoyer le vestiaire et de repartir sur de bonnes bases. Donc moi je vois ça comme ça. L'obligation l'année prochaine ce sera d'aller chercher une Coupe d'Europe, aussi petite soit-elle, une qualification pardon. Maintenant à 18h on voit ses qualités, c'est un excellent entraîneur. Est-ce que c'est un grand entraîneur? Je n'en suis pas persuadé.
On ne sait pas encore, on n'a pas la réponse. On l'a pas vu à Monaco le grand entraîneur en tout cas.
Ouais, et puis juste un petit mot sur Iraola, c'est que vous savez que Philippe Luis s'est engagé aussi en L1 avec Monaco et il semblerait quand même que Leverkusen ait raté Philippe Luis, qui lui voulait absolument qu'on lui dise oui, et que le Bayer Leverkusen était en train de s'occuper, était occupé avec Iraola avant qu'il signe évidemment à Liverpool, et il se risque de se trouver vraiment dans le bec dans l'eau, puisque n'oublions pas, et j'ai vérifié parce que c'est un truc moi qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui ils sont en train de chercher un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, Leverkusen, mais ils ne sont toujours pas séparé de Kasper Hjulmand. C'est-à-dire que voyez ce qui risque de se passer. Kasper Hjulmand, qu'on accuse de tous les maux aujourd'hui du côté de Leverkusen, mais je pense que Leverkusen, depuis son doublé de 2024, a pris un petit peu la grosse tête, risque de se trouver le bec dans l'eau. Et Oliver Glasner, qui est aussi annoncé en discussion avec Leverkusen, n'est pas forcément une piste très chaude pour le club allemand. Donc moi, j'attends avec impatience les nouvelles du côté de Leverkusen. Qui va être sur le banc l'année prochaine.
Daniel est juste, on est allé un peu vite sur Adrien Rabiot, il y a beaucoup de questions notamment sur le chat YouTube. Quel avenir pour lui, son père spirituel d'entraîneur avec Deschamps, c'est Massimiliano Allegri, qui va donc, c'est pas encore officiel, hein, signé à Naples, c'est assez fou, il fait le tour des clubs. Est-ce que Rabiot va le suivre? C'est ce que je lisais dans la presse italienne ce matin justement.
Alors oui, ce qu'il dit c'est que ça dépend de Anguissa en gros, c'est-à-dire le Naples, ils ont un milieu assez riche, il va falloir que quelqu'un parte, c'est peut-être Anguissa qui va partir, et alors là, oui, ça serait possible que Rabiot rejoigne Allegri, que voilà, on sait qu'il le considère un deuxième papa, on a fait ces mêmes discours l'année dernière, parce que il paraît à un certain moment que c'était absurde que Marseille allait se séparer de Rabiot et tout ça, et moi je disais, mais regardez que Allegri, il l'appelle, lui il répond et il lui passe les téléphones, quand il lui passe les téléphones il lui dit c'est ton papa. Donc il y a une relation spéciale. Apparemment, ça, on c'est pas sûr, on sait pas si c'est vrai. Allegri, lors du dernier match, il savait déjà qu'il allait partir, il savait déjà qu'il allait à Naples, et il allait chez Rabiot et chez Salemakers leur dire de le rejoindre à Naples. Entre-temps, il y a De Bruyne qui s'est plaint du jeu de Conte, en disant que c'était pas assez amusant, et c'était pas assez, il jouait pas assez au football. Voilà, il lui avait promis quelque chose qui lui ont pas donné. Et donc voilà, on va, qu'est-ce qui va se passer avec Allegri? Peut-être que le milieu de Naples change beaucoup. Pour le moment, il y a beaucoup de gens. Donc il va falloir que quelqu'un parte, va falloir faire du mercato parce que Naples, ils avaient aussi beaucoup dépensé pour compter justement pour essayer de gagner les championnats deux fois de suite. Et donc voilà, on
sait pas vraiment. La question de l'avenir de De Bruyne également qui se pose,
oui.
Daniel, chez toi à Naples. Beaucoup de questions qui vont se poser là, les anciens notamment. Est-ce qu'un Luka Modric va rempiler, va rester au Milan par exemple?
Non, mais non, Modric, pour le moment, ce qu'il dit, c'est qu'il va saluer le football, il va, ses derniers matchs, il va aller jouer à la Coupe du Monde. Et voilà, si vous voulez, on peut dire que l'Italie, elle a tellement fatigué Modric qu'il a plus envie de jouer au foot.
Quoi, terminé, dégoûté du football, quoi. Voilà,
c'est mais ça. Lui, deux jours avant que le Milan limoge Allegri, il avait parlé d'Allegri comme un des meilleurs entraîneurs qu'il ait jamais eu. Donc, je sais pas non plus qu'est-ce qui se passe dans la tête de Modric. Peut-être le coup qu'il a pris à la mâchoire, à la pommette, c'était très fort.
Il a perdu un peu la tête, peut-être, exactement. Ouais. Bon, pour conclure sur le mercato, c'est brûlant, visiblement, Julien, concernant Pierre Sage et Crystal Palace. Hein. Je vois la BBC qui disait que, bon, depuis plusieurs semaines, Crystal Palace observe, et tente d'approcher Pierre Sage, le coach de Lens, bien sûr. Qu'en est-il aujourd'hui?
Oui, je pense effectivement que, que les positions se rapprochent, toutes les positions, hein, celle de Lens aussi forcément, parce que pour eux, ben, il faut préparer l'après Pierre Sage s'il s'en va, il était encore son contrat aussi, donc il y a forcément un accord à trouver entre les deux clubs. Pour Crystal Palace, c'est vrai que depuis longtemps, ça ne date pas que de cette saison, on l'a expliqué un tout petit peu hier dans l'after avec Gilbert et les garçons, que le fait que des clubs anglais comme Liverpool, comme Crystal Palace avaient forcément déjà noté le très bon travail de Pierre Sage à Lyon, déjà avant même son arrivée à Lens, mais encore plus après la très belle saison qu'on a vue à Lens, notamment dans son côté intensité, pressing, mouvement, etc., la façon dont son équipe joue. En plus, quand on suit Glasner, quand tu succèdes pardon à Glasner et sa défense à 5, et que tu joues déjà dans une défense à 5 avec les mêmes joueurs, c'est forcément plus pratique. Donc du côté de Crystal Palace, on voulait un entraîneur qui jouait avec une défense à 5. Et donc c'est vrai que Pierre Sage, comme disent les Anglais, ont cette expression, ils disent tick all the boxes. Donc il coche toutes les cases en fait de ce que Palace recherchait. Et après, c'est triste ce serait triste de le voir quitter Lens et de pas amener cette équipe en Ligue des Champions comme il l'a qualifié pour la Ligue des Champions. Mais moi, je serais très excité de le voir en première ligue. Et même si je serais très triste pour mon ami Joseph Ogourlian, je pense que ce serait un très bon coup réalisé par Crystal Palace et leur club.
Il a des amis partout, Julien. Alors, votre 11, je voulais ponctuer la saison de club ainsi, avec vos 11 dans vos championnats respectifs. On les postera sur les réseaux de l'After, notamment sur X. Je vais commencer avec toi, Edgar. Quel est ton 11 Liga cette saison?
Alors, mon 11 Liga, forcément l'équipe la plus représentée, c'est le FC Barcelone qui est champion d'Espagne avec Joan Garcia dans les cages, la défense de la droite vers la gauche, Marcos Llorente de l'Atlético, Marc Poubil de l'Atlético, parce que même s'il a fait qu'une demi-saison, sur cette demi-saison, je pense que c'est le meilleur défenseur du championnat, Eric Garcia à ses côtés, joueur du Barça, et puis à gauche, Carlos Romero de l'Espagnol. J'hésitais avec Pep Chavarria du Rayo, mais je voulais pas oublier aussi le très bon début de saison de l'Espagnol, et d'ailleurs Carlos Romero, il retourne à Villarreal la saison prochaine, ça peut être une très très bonne recrue entre guillemets pour qu'il revienne de près. Au milieu de terrain, Pedri évidemment, quand même si je restais un tout petit peu sur ma faim sur la deuxième partie de saison. Et à gauche, j'ai beaucoup hésité entre trois joueurs, Luis Milla, Pablo Fornals ou Aurélien Tchouaméni. J'ai choisi Luis Milla, même si les deux autres méritent autant d'y être, parce que Luis Milla, il termine, comme on le mentionnait la semaine dernière, avec 10 passes décisives tout en jouant dans l'avant-dernière attaque du championnat, donc je voulais quand même souligner ça. Et puis devant, on va dire qu'on a un 4-4-2 très très offensif, avec Lamine Yamal à droite, forcément. Molero joueur, de Villarreal à gauche, ouais, mon meilleur joueur. Molero à gauche pour récompenser aussi Villarreal, même s'il a manqué parfois de régularité. Il fait une très très bonne saison et il fallait forcément aussi un joueur de Villarreal puisqu'il termine troisième du championnat. Et puis devant, Kylian Mbappé et Vedat Muriqi.
Bon, c'est très déséquilibré ce 4-2-4 limite d'Edgar Grelot, mais pourquoi
pas. N'importe quoi,
hein. Ça n'a aucun sens, c'est bon. Il a empilé des joueurs, voilà, c'est tout.
C'est un 4-4-2 très offensif.
Oui, c'est même un
4-2-4, après, si tu veux, hein, si vous voulez, je vous sors Molero, je mets Chouaméni au milieu et on a un peu plus d'équilibre.
Tu gagneras 8-7 ou tu perdras 7-2, mon cher Edgar.
On va gagner 5-4 contre la Bundesliga.
Tiens, Julien, ton 11 de la saison première ligue, c'est important.
Allez, c'est parti. Alors moi, c'est un vrai 11. Hein. C'est pas un truc de footix là comme Edgar. Attends, faut que je retrouve. Mais... Alors voilà.
Ah, d'accord.
Alors forcément, une défense qui est à 80. Enfin non, beaucoup d'Arsenal, on va dire. J'arrive plus à compter. Donc Raya dans les buts. De loin le meilleur gardien de la saison, même si on aurait pu parler de Roofs à Sunderland qui a été très bon aussi par exemple, mais Raya c'est le plus de clean sheet cette saison, c'est encore une fois des arrêts assez incroyables sur des matchs très importants, notamment celui à domicile contre Brighton par exemple. Tout ça, une défense où il y a trois autres gunners, Timber arrière droit malgré sa blessure de fin de saison, Saliba et Gabriel bien sûr dans l'axe, pour moi la meilleure paire de défenseurs centraux en Europe, le jeune O'Reilly de Manchester City arrière gauche, qui est alors pas un arrière gauche je sais, mais dans mon équipe où on va jouer beaucoup avec le ballon pour mettre 7 buts à celle d'Edgar, bah mon petit O'Reilly viendra au milieu de terrain. Il est grand, il est athlétique, il est élégant avec son pied gauche. Et il a vraiment été très très bon avec le City de Guardiola. Il aura notamment gagné la Coupe de la Ligue avec ses 2 buts en finale contre Arsenal. Un milieu à 3, mais parce que Bernardo, je vous expliquerai son rôle un petit peu hybride, on va dire. Mais Rice et Elliot Anderson devant la défense. Rice parce que c'est le patron, sincèrement. C'était assez exceptionnel de le voir à ce niveau-là cette saison. Et puis Elliot Anderson pour sa dernière saison sûrement à Forest a encore pris une autre dimension, a franchi un palier assez important, notamment avec la Coupe d'Europe aussi. Il aura un gros transfert cet été, c'est sûr, soit à City, soit à United, soit ailleurs, mais il va aussi être titulaire avec l'équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel parce qu'il a vraiment fait une saison fantastique. Et donc j'aurai Bernardo qui sera un peu libre aussi parce que c'est Bernardo Silva, parce que c'est le joueur le plus intelligent que j'ai jamais connu, que j'ai jamais rencontré. Bruno Fernandez en 10 pour toutes les passes décisives qu'il va distribuer à mon duo d'attaquants. Erling Haaland bien sûr, meilleur buteur encore une fois de la saison en Première Ligue. Et puis Igor Thiago à Brentford qui nous a sorti une saison. Alors il y a beaucoup de pénalties c'est sûr, mais à 21 buts, incroyable pour ses débuts en Première Ligue. Il avait été blessé quasiment toute la saison dernière après être arrivé de Belgique. Et que c'est quelqu'un qui a une histoire fantastique, qui encore à 24 ans n'était pas vraiment pro. Il a travaillé comme ouvrier dans les chantiers au Brésil avant de tenter sa chance en Europe. Et moi, je trouve que cette abnégation-là, elle est très méritante. Et donc voilà, pour moi, sans aucun doute, Igor Thiago dans mon équipe de la saison.
Et Bruno Fernandes, ton meilleur joueur de Première Ligue. Polo, ton 11 allemand.
Alors j'ai eu quelques... Je suis resté très sérieux en fait, c'est-à-dire que j'ai pas voulu partir dans des joueurs qui auraient mérité d'être dans ce 11, et notamment le jeune Maza. Donc meilleur gardien de la saison, c'est Kobel de Dortmund. Défense centrale, là je me suis posé pas mal de questions. Schlotterbeck évidemment, stopper gauche, aussi parce qu'il est gaucher. Et puis j'ai mis, moi celui que je considère comme la révélation de la saison en Bundesliga, au minimum en défense, c'est évidemment Vuskovic. Ou pas Mécano le méritait et évidemment Jonathan Tah évidemment du Bayern le méritait aussi, mais j'ai préféré privilégier la défense. À droite, il fallait absolument récompenser Hoffenheim, et un joueur qui est vieux, Koufal, a fait une saison extraordinaire. Évidemment statistiquement Ryerson de Dortmund est au-dessus, mais Koufal a été notamment lors des 6 premiers mois génial ici. Mais encore une fois, le fait de s'être relancé a été une véritable surprise. Côté gauche, je suis resté très classique, j'avais le choix entre Braun et Rome, j'ai choisi Rome évidemment de Leipzig. Au milieu de terrain, alors là ça a été le plus compliqué, donc je suis en 4-4-1-1. Là j'ai choisi le milieu de terrain du Bayern évidemment, parce que c'est compliqué d'enlever un véritable numéro 6 comme Pavlovic avec Kimmich à côté. Là c'est vraiment le truc le plus compliqué, parce qu'un Maza est évidemment pas loin, mais quand tu vois la saison qu'a réalisé le Bayern, c'est pas possible de l'enlever. Et là on en revient sur les ailiers, Olise côté droit, et là c'est compliqué côté gauche évidemment, puisque le choix entre Diaz et Diomande est compliqué. J'ai évidemment choisi, statistiquement c'est toujours pareil, c'est Diaz qui est au-dessus pour le moment, hein. Ça ne veut pas dire que Diomande ne le sera pas l'année prochaine s'il reste en Bundesliga. Et les deux attaquants, Undav qui a porté Stuttgart cette saison, et évidemment King Kane, hein, qui est évidemment intouchable.
Voilà, pour le 11 de Polo. Et le dernier 11, celui de Serie A. Tu joues dans quel système, Daniel, et toi?
Moi, je savais pas qu'on devait jouer les uns contre les autres, sinon j'aurais mis 5-3-2, comme tous les gens en Italie. Non, moi, j'ai mis un 4-2-3.
Ils jouent pas avec les mêmes règles, les autres, Daniele. T'as raison.
Ouais, non, moi, j'ai mis un 4-2-3-1 pour faire de plaisir aux yeux des supporters. Dans les buts, il y avait le choix entre Svilar et Maignan, en gros. Mais Maignan, à la fin de la saison, il a un peu baissé ses performances. Et Svilar, il reste le gardien qui a bloqué le plus d'expected goals, par exemple. Le pourcentage est le plus haut, soit à 115%. Et en plus, voilà, je pense qu'il va avoir aussi des mercatos. La Roma, elle doit vendre, soit c'est Svilar, soit c'est Manu Koné. Et après, en défense, de la droite à la gauche, Palestra, que c'est même... un joueur qu'il devient trop gros pour l'Italie. C'est même en plus réductif de parler de lui comme un arrière droit. C'est un arrière droit où il joue avec les deux pieds en fait, droit et gauche. Mm-hmm. Il est très offensif, très costaud, très vite. C'est vraiment un joueur de Premier League. Moi, je pense que lui, il va, s'il continue comme ça, au moins, on va entendre parler de lui. Akanji, c'est un très bon recrue pour l'Inter. C'était peut-être le meilleur défenseur du championnat. Jacobo Ramon, c'est le jeune défenseur prêté de Madrid à Com. Il a très bien joué, il n'est pas parfait, mais il est très jeune. Et en plus, Com, ils ont une attitude que je voudrais porter dans mon 4-2-3-1, c'est-à-dire défense haute et agressive. Di Marco, latéral gauche, c'est le meilleur joueur de la saison. Il a marqué, je ne me souviens plus combien de passes décisives, mais c'est vraiment, c'était sa meilleure saison de sa vie. Milieu, Manu Koné, Dacuña, voilà, j'ai choisi un milieu français. Vous savez tellement que j'aime Dacuña, son histoire, qu'il était à Com quand ils étaient en deuxième division. C'était un numéro 10 qui était replacé devant la défense. Et il a toutes les qualités du monde. Je pense que la seule chose qui lui manque un tout petit peu, c'est un peu de l'athlétisme. C'est-à-dire des puissances, d'explosivité dans les premiers pas. Mais sinon, il est dynamique, il a la technique, il a plus de techniques de Manu Koné, il voit plus le but de Manu Koné. Moi, j'aurais bien aimé le voir à la Coupe du Monde. Bon. Les trois joueurs sur les trois quarts, c'est Alisson Santos de Naples. Il a pas beaucoup joué. Il est arrivé en cours de saison, mais c'était un crack. C'était un joueur que, il n'était pas titulaire à Sporting, il n'était pas toujours titulaire avec Naples, mais à chaque fois qu'il jouait, on se disait, tu vois, ça c'est le type de joueur qui manque en Italie, qui peut faire la différence en Italie. Et Lautaro, derrière le numéro 9, parce que Lautaro, même si c'est surtout avec l'Argentine, il va être un buteur, c'est un très grand numéro 10, c'est-à-dire moi je pense le meilleur attaquant joué dos au but avec le défenseur qui le presse par derrière. C'est vraiment c'est vraiment le meilleur au monde à faire ça, avec Harry Kane peut-être au même niveau. Après, Harry Kane, il a plus de vision de jeu, c'est plus un vrai numéro 10 avec créativité. Mais juste si on parle de maintien du ballon, Lautaro top. Et Nico Paz à gauche, même si lui normalement il joue à droite, mais c'est on l'a dit, il a fait un début de saison spectaculaire. Après, il a un peu baissé son niveau aussi. Il reste très jeune, il reste excitant, beau à voir, et en plus fort, très fort dans les duels. Moi, j'espère qu'il va rester en Italie l'année prochaine aussi. Et bon, le numéro 9, même s'il a joué 6 mois en Italie, c'est Donny Malen. C'est un joueur incroyable. Lui aussi, c'est sur un autre niveau. Ses démarquages, ses premiers contrôles, la façon dans laquelle il voit les buts et les buts qu'il a marqués. Parce que je crois qu'il a marqué 15 buts en 17 matchs, un truc comme ça.
Avec la Roma, ouais, c'est ça. Ouais. Mais...
c'était incroyable. On va le voir lui aussi à la Coupe du Monde. Je suis très, très, très curieux de voir s'il le laisse jouer numéro 9. Parce que je pense que lui, peut-être il a changé sa carrière aussi.
Exactement. Voilà le 11 d'Agnelli. Très complet. Voilà les 4-11 qu'on va publier sur les réseaux. Vous pourrez débattre entre vous. Il y aura forcément des débats. Dans un instant, tiens, la Coupe du Monde, on va l'évoquer. Ça démarre dans 10 jours à peine. On va beaucoup en parler, vous le savez, sur RMC, la radio officielle du Mondial. Dans un instant, les drôles de dames vont nous donner leurs favoris, leurs outsiders également. On va débattre ensemble. D'abord, une minute musicale. Agnelli, tu gardes la main. On envoie la musique, Polo.
Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri
cento. Bon, ça c'est Fabrizio De André, je pense que quelqu'un le connaît déjà. La chanson s'appelle Amore che viene, amore che vai. Et ces mots-là, ces jours perdus à courir après les vents, à demander un baiser et à en vouloir sans d'autre. Ça me fait penser à Rafa Leão, même c'est Rafa Leão qui m'a fait penser à cette chanson. Parce qu'il y a un peu à cause de ses vers, sur les jours passés à courir après le vent, peut-être la plus grande qualité de Leão, cette légèreté dans la course qui le rend parfois incessable. Un peu à cause de ses baisers ou des quelques baisers qui donnent envie d'en recevoir beaucoup d'autres. Et les tifos, les supporters de Milan, combien de baisers de Leão auraient voulu avoir plus de ceux qu'ils ont eu et qu'ils n'ont jamais eu. Aujourd'hui, au terme d'une saison où il a joué par intermittence, il a marqué que 9 buts et il a semblé pour la première fois dans son histoire à Milan ne plus être indispensable, ne plus être le meilleur joueur. Ils devront probablement se dire adieu, Milan et Leão. Leão, il a laissé un message sur les réseaux où il a dit qu'il a tout donné à Milan et qui, voilà, son rêve maintenant c'est de jouer dans un autre championnat. Les clubs s'est agacé parce que ils ont parlé d'un dégât économique, mais la Gazzetta, il a fait une première page peu nostalgique où ils ont marqué ciao Leao. Donc l'impression c'est qu'il laisse Milan avec l'idée d'un potentiel jamais exploité totalement, avec des très bons moments, les saisons 2021-2022 et 2022-2023 où il a gagné les championnats, il a amené les Milan à la demi-finale de la Ligue des Champions, où il a marqué 14 et 16 buts, 12 passes décisives pour chaque saison, donc quand même il a atteint un bon niveau, mais après il n'est pas devenu les leaders que le Milan il voulait et que les supporters des Milan ils avaient cru avoir à un certain moment. Donc c'est un de ses amours qui est, on s'est dit, voilà, je t'ai beaucoup aimé, mais c'est peut-être le moment de se quitter. Trop romantique peut-être.
Magnifique. Non, ouais, très bien. Show musical parfait, Daniele. Comme tous les lundis. Merci pour ta minute musicale. Dans un instant, la Coupe du Monde, on en parle avec les cadres de dames. Restez avec nous et avec RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les 4 drôles de dames, RMC, 21h33, l'after pour le relais à 22h jusqu'à minuit, comme tous les soirs en direct de Valenciennes ce soir. Alors, la Coupe du Monde, c'est dans 10 jours, les amis. Je sais pas si ça frémit déjà un peu chez vous en France, pas tout à fait. Pas vraiment, on a l'impression qu'elle arrive dans un mois seulement. Il a fallu laisser passer la finale de la Ligue des Champions pour commencer à entrer dedans. Il y a des matchs de préparation ce soir. L'Autriche face à la Tunisie, 0-0, mais l'Autriche réduite à 10. Contre Moise, après Conrad Leimer, le rouge qui s'est, dont il a écopé à 37. Tu dis quoi,
Paulo ? Trois poteaux pour la Tunisie. Ouais. J'ai rarement vu l'Autriche aussi mauvaise que ça. On m'expliquait que la Tunisie, c'était très très moyen. Bah, ce que je vois ce soir.
Tunisie, c'est très très moyen, la Tunisie. En tout cas,
Sur la dernière canne, c'est dégueulasse.
Rien. Autriche dégueulasse. C'est qu'un match de prépa. La Norvège a battu la Suède 3-1 avec un doublé de Jørgen Larsen, joueur de Crystal Palace, arrivé cet hiver, je crois, mon cher Julien. Crystal Palace. Et Noussa de Leipzig. Qui marque pour la Norvège. Ah, je vous dis attention à la Norvège, les amis. On n'en parle pas beaucoup.
Sans Haaland.
Sans Haaland, ce soir.
On en parle beaucoup.
Ouais, toi, sans Odegaard, on en parle beaucoup. Mais Odegaard, Haaland. Comment tu dis, Daniele?
En Italie, on en a parlé beaucoup.
Oui, bien sûr, évidemment. Ils vous ont mis 2x4-1, c'est ça? 4-1 et sur le match retour, je sais plus.
3-1, je pense, sur le match retour, 4-1, mais 4-1 surtout, retour, ils ont été largement supérieurs tous les deux fois, mais vraiment d'un autre niveau.
On parlera de la Norvège. Et d'ailleurs, vous pouvez écouter le podcast déjà en ligne sur YouTube, la chaîne de l'After, consacrée à la Norvège, comme les 47 autres sélections. Alors, comment on parle de ce mondial? Vous allez vous engager, les drôles de dames. Quel est votre favori dans cette compétition qui approche? C'est un petit jeu un peu puéril, mais qu'on aime bien faire quand même. Savoir comment vous vous situez par rapport aux forces en présence. La sélection la mieux armée, selon vous, aujourd'hui, celle qui va confirmer son potentiel, ses résultats récents, la continuité ou surprendre. Je commence avec toi, Daniele, honneur à l'absent bien sûr. Daniele, qui tu vois gagner la Coupe du Monde 2026?
Merci, mais c'est banal peut-être de le dire, mais je pense que la France c'est l'équipe favori. Après, bien sûr, il y a l'Espagne qu'on a vu, elle a du potentiel, mais elle a peut-être aussi, si je ne me trompe pas, j'avais regardé comment ça pourrait finir les tableaux selon les premières et les deuxièmes classifiés. Ils ont un bon côté de tableau. Et après, nous, on va en Italie, on va pour supporter le Brésil, pour Ancelotti. Les journaux, la Gazzetta, elle publie des nouvelles du Brésil, un peu comme si c'était notre deuxième équipe. Et moi, j'ai dit, attention, t'as dit attention à la Norvège, moi, j'ai dit attention au Japon. Au Japon.
Le Japon?
Moi, je le vois loin. Moi, je le vois même huitième, quart de finale.
Il y a un groupe difficile. Hein.
J'aime bien.
Pas gagner, mais pas pour gagner. Mais ils n'ont pas Mitoma, mais ils ont un système de jeu que, effectivement, même s'il n'y a pas Mitoma, ça ne change pas énormément.
Ils vont éliminer les Pays-Bas, c'est cool.
Alors, je précise, ils commenceront par les Pays-Bas, Tunisie ensuite, que tu regardes ce soir, Polo, et avant de finir face à la Suède, dans cette phase de groupe du Mondial. Tu es d'accord avec lui? Tu mets le Japon comme un outsider, Polo, toi aussi?
Ah oui, mais déjà ça fait quelques coupes du monde que le Japon se débrouille bien, puis ils ont une belle génération. Donc moi, si le Japon m'intéresse beaucoup, si ils arrivent à compenser physiquement parfois ce qui leur manque un petit peu, ils s'y font encore des. Mais c'est un groupe compliqué, attention. Hein, Suède, Suède, Pays-Bas, Japon, et puis j'en ai oublié un, et puis Tunisie, oui, et ça va falloir sortir. Hein.
Bon. Quel est ton favori, Polo, toi, de la Coupe du Monde?
Moi, je reste sur le championnat d'Europe. Donc, l'Espagne me semble toujours, au niveau du collectif, un petit peu au-dessus. La qualité individuelle des Français, elle est là, évidemment. L'Angleterre, ça reste l'Angleterre. Le maillot jaune de la première semaine du Tour de France.
On va en parler avec Julien, mais ça veut dire quoi? Oui, l'Angleterre, ça reste Angleterre. Ça reste Angleterre qui ne gagnera
J'ai commencé à regarder l'Angleterre dans les années 80. Et je crois que les Anglais ont un problème déjà avec leur représentation en fait de l'équipe nationale. Je suis pas persuadé que tous les Anglais soutiennent l'équipe nationale. Par exemple, les Allemands sont beaucoup plus nationalistes à ce niveau-là que les Anglais. Donc, je pense qu'il y a une identification au club qui est plus importante que pour la sélection. Et moi, quand je voyais à chaque fois les équipes anglaises, tu te dis mais attends, leur 11, ils vont aller loin, etc. Et à chaque fois, ils sautaient. À tel point que je trouve que moi je rigolais quand on a inventé cette expression qu'on n'utilisait pas lorsque j'avais encore beaucoup de cheveux, qui était cette génération dorée. Tu vois, la génération dorée, c'est les équipes de losers en Allemagne, c'est tout. C'est pas il y a eu la Coupe du Monde 66. Les Anglais, on nous dit, ils sortent en ce moment des joueurs tout le temps. Mais moi, je ne le vois pas spécialement collectivement par rapport à l'Espagne. L'Espagne est largement au sens collectif, largement au-dessus des Anglais. Donc moi, j'en suis là en ce moment. Portugal peut-être peut faire quelque chose à une belle génération. L'Allemagne pour moi sur le papier est très compétitive, mais à chaque fois que je les vois jouer, j'ai l'impression qu'on ne joue pas une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe, mais le championnat d'Europe espoir. Je commence à chaque fois, j'ai toujours pas mon 11 de départ, on l'a vu d'ailleurs, même si la victoire a été tranquille 4-0 hier, on voit que c'est le jeune Karl qui a joué, il a mis Braun plutôt que Rome, il a évidemment Neuer est blessé, donc c'est Bowman qui était là, donc on n'a pas forcément le 11 de départ.
Également il y a un débat le doublé de Denis Zoula, bien sûr.
Exactement, et puis donc moi le problème c'est que si la France arrive trop tôt, ça risque d'être compliqué pour l'Allemagne. Mais c'est une équipe qui pourrait se révéler, c'est-à-dire que elle fait partie des favoris, mais ce n'est pas le favori en fait. Et elle a besoin. Ça fait 10 ans quand même que l'Allemagne n'est pas allée en demi-finale d'une grande compétition. Donc ça me semble important. Et ce que je trouve dommage, c'est que j'ai le sentiment que par rapport à l'Euro 2024 où l'Espagne avait battu, éliminé l'Allemagne, j'ai pas le sentiment que le gap s'est rétréci. Et j'ai plutôt l'impression que le trou s'est creusé entre les Espagnols et les Allemands. Mais c'est un avis évidemment très personnel envers la compétition. Et pour ma surprise, le Japon, ouais, évidemment. Je pensais à l'équipe que je suis en train de regarder ce soir, c'est l'Autriche. Moi, je voyais très bien l'Autriche. Mais alors, ce qu'ils font ce soir, c'est assez lamentable. Mais je vais rester sur eux. Pas de Coupe du Monde depuis 1998. Donc voilà. Et puis peut-être une équipe africaine. Je pense à la Côte d'Ivoire en particulier.
Au Sénégal aussi. Plus c'est Côte d'Ivoire.
Au Sénégal, ouais.
Maroc, Côte d'Ivoire. Sur moi, c'est plutôt la Côte d'Ivoire. Moi. Ouais, Maroc ou Sénégal, plus que Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec toi, Julien. Voilà pour Polo. Tiens, ajoute la surprise également, Julien. Toi, commençons par ça. Si t'as une surprise qui sort du chapeau, c'est qui?
La Colombie pour moi.
La Colombie pour
moi. Norvège et la Colombie. Norvège et Colombie, ou voir l'Équateur. Mais je trouve que l'Équateur, autant
déséquilibré quand même. Voilà.
Très fort. Ouais. C'est ça. Autant offensivement, énervé.
Ah, j'allais donner l'Équateur, moi.
Alors pourquoi? Vas-y,
ouais, mais je comprends tout à fait.
À part la charnière, je veux du muscle également en Équateur. Vas-y, dis-moi.
Non, mais je pense que une Coupe du Monde, t'as pas besoin d'être flamboyant, et que ça va être une équipe extrêmement dure à jouer. Je veux dire, c'est une équipe qui a pris 5 buts en 18 matchs de qualification. Et ça, à la Coupe du Monde, je veux dire, t'as pas une seule équipe qui va être contente de jouer l'Équateur. T'as des équipes qui vont être un peu plus stressées que d'habitude, qui vont avoir du mal à développer leur jeu. Donc des fois, quand ton jeu est basé sur la solidité, même si effectivement au niveau de l'effectif, évidemment, t'as des joueurs phares, mais t'as peut-être moins de créateurs que dans d'autres équipes. Ou peut-être qu'on va moins se régaler qu'avec d'autres équipes, mais je pense que ça va être une équipe vraiment très très difficile à jouer, surtout quand je regarde leur groupe. Curaçao, Allemagne, Côte d'Ivoire, c'est un groupe duquel ils peuvent se sortir. Et derrière, une fois que ça va être les matchs à élimination directe, encore une fois, c'est vraiment pas une équipe sur laquelle j'ai envie de tomber. Donc je pense que, alors évidemment, c'est pas une équipe pour aller gagner la Coupe du Monde, mais je pense que c'est une équipe qui peut être une petite surprise, pourquoi pas sortir un outsider au titre et être une une des belles histoires de la Coupe du Monde, même si je suis d'accord avec vous, ils ont des limites qui font que je les vois pas non plus aller au bout ou en demi, on est tous d'accord.
Et Julien, c'est pourquoi... deuxième vas-y, Julien. Des éliminatoires de la,
tout à fait.
De la zone.
Ah là, un deuxième des qualifications.
Ils sont tous du Qatar. Ils étaient déjà au Qatar, quasiment à 90% le même effectif.
Exactement. On verra ça. Garde ton favori, Julien, dans un instant après la pause. D'abord ta minute musicale. C'est parti, on envoie la musique pour Julien Polo.
Electric Live Orchestra, le groupe de Birmingham des années 70, un des très bons groupes de rock de l'époque en Angleterre, avec It's Over, parce qu'on va parler de la retraite de James Milner, qui a annoncé donc sa retraite ce week-end à l'âge de 40 ans. On avait déjà parlé de lui, rappelez-vous, quand il avait battu le record de Gareth Barry pour le plus grand nombre de matchs en Premier League, 658 matchs. Il a commencé à 16 ans, ça fait donc 24 saisons de suite qu'il a évolué chez les professionnels à Newcastle, à Leeds. Vous vous rappelez de ses débuts à Leeds où il avait vraiment l'air très très jeune, à Aston Villa, à Manchester City, à Liverpool. Au total, 903 matchs en club dans toute sa carrière, toutes compétitions confondues, 61 sélections avec l'équipe d'Angleterre. Le professionnel du professionnalisme, en fait, si vous voulez. Incroyable, hygiène de vie, diététique, tout ce que vous voulez, tout le travail invisible dont on tagne les jeunes joueurs avec en disant faut faire ci, faut faire ça. Bah voilà, faut faire du James Milner si vous voulez durer dans le foot. Et cette longévité, elle est magnifique. Alors, It's Over, c'est un peu. T'as l'impression que c'est un peu négatif, mais pas du tout. En fait, c'est juste pour dire, bah voilà, c'est terminé, la belle aventure, la belle histoire. Une histoire de donc 24 ans chez les pros, à 40 ans, même s'il a encore fait quelques bons trucs avec Brighton cette saison, mais je pense qu'il s'est dit, bah, 40 ans, c'est donc il était le cinquième joueur de l'histoire de la Premier League à encore jouer à l'âge de 40 ans. C'est tout simplement incroyable. Donc voilà, je pense qu'il mérite un très bel hommage. Et pas que de nous ce soir, mais aussi, et l'aura de toute façon en début de saison, de la Premier League, de ses anciens clubs, parce que c'est quand même un dinosaure incroyable de la Premier League qui prend sa retraite à un moment où on l'envoie de moins en moins, ces joueurs-là, hein, qui restent comme ça jusqu'à aussi longtemps dans le jeu. Franchement, bravo à lui.
James Milner, le match de Julien aux joueurs anglais. Merci Julien pour ta minute musicale. On apprécie le choix également pour la dernière de la saison. Dans un instant, le favori de Julien, d'Edgar, évidemment. Qui sera le meilleur joueur selon vous? Si vous misez sur une révélation, un espoir qui va éclater aux yeux du monde pendant ce mondial, eh bien écoutez, dans un instant, les quatre drôles de dames, vous serez peut-être d'accord avec elles. Restez avec nous dans un instant. La suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Germain.
Dernier quart d'heure avec les drôles de dames, Daniel et Edgar, Polo, Julien. Bien sûr, l'After à 22h avec Olivier Létang, invité exceptionnel. Ce sera en direct de Valenciennes de 22h jusqu'à minuit. Julien, Laurence, on parle de la Coupe du Monde. Quel est ton favori?
Alors moi je pense qu'il n'y a pas un meilleur collectif que celui de l'Espagne déjà, ah bon, à la base. Donc collectivement
oui,
pardon.
Collectivement, tu parles de jeu, tu parles de préceptes.
Voilà, tout dans les automatismes, voilà. dans les habitudes de jeu,
le vécu,
dans les circuits préférentiels, ouais. Même si on sait que les circuits préférentiels au niveau international, c'est plus compliqué à mettre en place. Il n'y a pas mieux, individuellement, il n'y a pas mieux que l'équipe de France, déjà. Donc voilà. Après, c'est encore une fois qui prendra le dessus sur l'autre quand on aura ce genre de confrontation entre une équipe très forte collectivement et une équipe qui sera plus forte avec ses individualités. Donc à voir. Moi, je pense que le climat, déjà, avantagera massivement les pays sud-américains. Donc en gros, le Brésil et l'Argentine surtout. Et puis ensuite, après, l'Équateur dont on a déjà parlé, la Colombie également. Je pense que le soutien populaire encore une fois, des pays sud-américains sera un énorme avantage par rapport notamment aux Européens, c'est-à-dire qu'il y a une énorme communauté brésilienne et argentine, mais aussi colombienne, équatorienne, etc., etc. Mmh. Déjà aux États-Unis, alors que nous on aura quelques milliers de Français qui arriveront, eux ils seront un peu comme au Qatar, des dizaines de milliers. Je pense que ça va faire une grande différence aussi à ce niveau-là. Et après, ce qui me fascine le plus, moi, c'est de voir Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, ces entraîneurs-là qui n'ont jamais entraîné au niveau international avant et qui vont jouer leur première compétition, au-delà même de ce que Roberto Martinez va pouvoir faire avec un effectif fantastique. D'ailleurs, c'est peut-être le meilleur effectif de toute la Coupe du Monde, c'est celui du Portugal. Mais moi, aujourd'hui, si tu me dis est-ce que Roberto Martinez va faire tous les bons choix, j'en suis pas convaincu du tout. J'aime beaucoup Roberto, hein, mais il me convainc pas du tout. Donc ça, ce sera à voir aussi. Et puis, bien sûr, l'adieu aux légendes, voilà. Messi, dernière Coupe du Monde, Ronaldo, Modric, etc., etc.
Neymar aussi, hein, sûrement un adieu, hein, Coupe Neymar du Monde aussi, pour Neymar avec le Brésil.
Oh, Manuel Neuer.
Manuel Neuer également.
Il y a plus d'adieux que d'habitude.
C'est le mondial de l'EHPAD, étonnamment.
On pensait que c'était le mondial d'il y a 4 ans initialement, ce genre d'adieu. On l'avait annoncé déjà comme le dernier de Messi et Ronaldo, par exemple.
Quelle est la légende qui va faire le mondial le plus catastrophique selon vous? Entre Cristiano,
Messi. Tu veux vraiment qu'on se fasse insulter sur les réseaux?
Neuer, oui, j'ai envie de ça, mettre un peu de vie. Mais quel est celui qui a le moins sa place finalement encore à une Coupe du Monde là? Ah, c'est un bon débat ça.
Mais tout le monde connaît la réponse, mais on peut pas vraiment le dire.
On va se faire dire Cristiano Ronaldo, vas-y, dis-le. Un peu de courage.
Les Madridistas, les tout ce que tu veux.
Mais il y a un joueur qui est à peine sur deux pieds et qui va jouer la Coupe du Monde. Je dirais Cristiano Ronaldo, je comprends par rapport à son âge, etc. Mais
tu parles de Neymar
aujourd'hui, t'as aussi des chances qu'il fasse une Coupe du Monde.
Titulaire, alors que Cristiano partira titulaire déjà.
Tout à fait.
Je pense qu'il y a beaucoup.
Mais Cristiano récemment, il a beaucoup marqué aussi avec la sélection.
Je pense qu'il y a beaucoup de risques autour de Manuel Neuer. Je vous parlais d'Uli Stein qui avait été dégagé de la Coupe du Monde 86. Il a dit le retour de Manuel Neuer en équipe d'Allemagne est un non-sens complet. C'est-à-dire que ça, il ne fait pas l'unanimité. Faut dire très clairement ce qui. Et puis là, il a repris l'entraînement, mais évidemment, il n'était pas là contre la Finlande. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de. Donc, si, ok, il y a Laura, il y a tout ça. Mais moi, je suis pas sûr que ce soit franchement, une belle sortie.
Même lui aurait dû y penser, mon cher Paulo. Alors, c'est évident, c'est facile dans ma position, on se dit un dernier mondial, États-Unis, l'Allemagne, la légende de Neuer. Mais il aurait pu se dire, écoute, qu'est-ce que je vais foutre là-bas encore, quoi. Ma carrière, elle a réussi avec la National Mannschaft. Pourquoi en plus, faire une dernière à plus de 40 ans après avoir été blessé plusieurs fois cette saison? Je vois pas trop
ça prépare pas l'avenir. L'équipe a un tableau compliqué parce que si tout se passe bien pour les deux nations, la France et l'Allemagne vont s'affronter en huitième de finale. Donc ça va strictement rien apporter en fait.
Oui, même à lui,
parce que le discours en Allemagne, c'est en huitième, l'Allemagne sort et on dit on n'a pas de chance avec le calendrier. Peut-être qu'on était aussi à l'Euro 2024 l'une des meilleures nations, mais on est tombé en quart contre l'Espagne, etc. Donc c'est, en fait on n'avance pas.
Voilà pour les vieilles légendes qu'on verra sur ce mondial. Votre révélation. Mouillez-vous les amis, quel est le joueur que vous voyez éclater dans ce mondial? Je commence avec toi, Edgar. Ton favori, Edgar? Alors, moi, je ne vais pas demander ton favori. C'est l'Espagne, on est d'accord?
Mon favori, j'étais d'accord, c'est l'Espagne. Mais la seule chose qui m'inquiète avec l'Espagne, c'est les blessés, les états de forme. Et notamment Nico Williams. J'ai du mal à me dire que Nico Williams va arriver et faire un mondial de dingue alors qu'il a passé toute la saison blessé, enfin les allers-retours. Et même quand il jouait, il n'était pas à son niveau. Et ça m'inquiète parce que ça va apporter aussi plus de défenseurs sur Lamine Yamal. Je pense que Lamine Yamal, l'équipe va beaucoup se reposer sur lui alors qu'il va revenir de blessure. Alors oui, c'est une équipe avant tout collective. Mais il y a des moments clés où tu auras besoin aussi que Lamine Yamal te sorte quelque chose du chapeau. Donc la blessure de Nico Williams, c'est son état de forme, ça me préoccupe plus que des incertitudes qu'on peut avoir à d'autres postes. Donc c'est le petit bémol pour moi que je vois autour de cette équipe. Mais ça reste mon favori. Maintenant après pour la révélation, alors c'est pas une révélation en tant que telle, mais je pense que c'est le joueur qui peut éclabousser le mondial de son talent et surtout passer dans une autre dimension encore. C'est Nico Paz, parce que je pense que mine de rien, même si on connaît tous son talent, la grande majorité de la planète football ne l'a presque jamais vu jouer ou très peu vu jouer, et je pense que là il va jouer dans l'une des sélections les plus suivies.
Est-ce qu'il va jouer, c'est la question, très peu joué avec l'Argentine, c'est pas le choix numéro 1 de Scaloni pour remplacer Di Maria par exemple.
Je pense que c'est l'un des joueurs qui peut te sortir une belle Coupe du Monde. On sait qu'il va très probablement jouer avec le Real Madrid l'année prochaine. Donc, il a déjà ce grand transfert en vue. Et quand tu penses un petit peu aux joueurs qui ont été révélés, c'est dans des Coupes du Monde, c'est des joueurs qui, derrière sont partis dans des grands clubs, etc. Et moi, je me dis que tout est écrit pour avoir un joueur qui va avoir un rôle peut-être auquel on s'attendait pas, qui va éclabousser le mondial de son talent, qui va peut-être passer ce cap, qui va, montrer enfin ce talent-là, dans des matchs que tout le monde regarde, parce que tout le monde ne regarde pas le Como, et je pense que c'est peut-être le moment où tout le monde vraiment va voir le type de joueur que c'est avant de le voir en club.
Allez, autre révélation, ta révélation, Daniele.
Moi aussi, c'est pas vraiment une révélation, mais je pense que ça pourrait être le mondial d'Hendrick, parce que si le Brésil il marche bien, c'est une équipe offensive. Lui, il m'a l'air d'être un garçon compétitif. Je dis ça. Comment dire, c'est un diminutif de. Je pense qu'il a le caractère. Voilà. Je pense que ça peut être un joueur de grands tournois. Il est très jeune, je sais. Il y a Ryan aussi dans son équipe qui pourrait prendre un peu de lumière. Il y a Vinicius qui a bien joué aussi un match amical. Mais je pense qu'Hendrick, il a quelque chose qui pourrait effectivement briller dans une coupe comme ça.
Polo.
J'en ai plusieurs. C'est que, bon, déjà, j'ai Diomandé, très clairement.
C'est mon top 3.
Alors, j'ai Diomandé, très clairement. Ouais. Si la Côte d'Ivoire va loin, c'est que Diomandé s'est installé dans l'équipe nationale et explose complètement. J'ai pas parlé de la Suisse, qui a une très belle, d'ailleurs, c'est même plus une surprise maintenant qu'ils sont en huitième de finale, mais si la Suisse va beaucoup plus loin, je pense que Manzambi, sera présent. Si l'Allemagne va très très loin, c'est qu'il y aura peut-être un petit Lennart Karl, côté droit, qui aura pris sa place à 17 ans. Donc là, je prends un énorme risque. Et puis, si l'Algérie va très, très loin, c'est parce que Maza sera présent. Voilà. Mais il y a sûrement des équipes d'Amérique latine, ils vont nous sortir des gamins de 18, 20 ans qu'on connaissait pas et qui vont faire leur, voilà.
Voilà pour Polo. Julien?
Ouais, Maza Diomandé, j'aime beaucoup, je suis tout à fait d'accord. Mozambi aussi avec Polo. Moi, mon petit Nico O'Reilly, dont on a parlé tout à l'heure dans mon équipe type de la saison, il sera titulaire aussi avec Tourelle et pour une première Coupe du Monde. Ce sera très intéressant à suivre, surtout dans un rôle qui est pas un rôle facile non plus à endosser, je vais dire, à cet âge-là dans une Coupe du Monde. Donc, ce sera vraiment intéressant. Et puis, moi, j'attends beaucoup d'Ayoub Bouadi. Même si je suis très content qu'il ait choisi le Maroc pour lui, pour sa famille et tout. Je suis un peu déçu qu'il ait pas choisi la France, mais j'ai envie de voir déjà s'il va jouer, enfin, beaucoup jouer ou pas. Mais j'ai hâte de le voir dans cette sélection marocaine qui promet beaucoup.
Bon, mais voilà, les amis, on a fait le tour pour cette Coupe du Monde qui démarre le 11 juin, vous le savez.
RMC. Oui, je peux ajouter un homme ?
Bien sûr.
Non, un Italien ou deux, gens peut-être, faut qu'on garde.
Oui, non. Ben, il y a Volpato qui va jouer avec l'Australie. Et l'Australie, il vient d'échanger d'équipe nationale.
Ah ouais, celui-là,
c'est pas bien, ça.
Ah ouais.
C'est pas bien.
D'accord.
Bon, écoute, il est né en Australie, il a grandi en Australie.
D'accord.
Mais moi, je voulais ajouter le nom d'Arda Güler. Je pense aussi qu'il a la carrure, il a l'âge, il pourrait faire une grosse Coupe du Monde.
Bon, écoute, il y a aussi un homme...
Surtout quand on connaît son rôle avec la Turquie, qui est ultra important et qui lui permet là de montrer tout ce qu'il a comme talent dans l'expression.
Ouais.
Bon, il y a aussi le petit pépite mexicain, il n'y a que lui dans cette sélection, c'est Gilberto Mora, 17 ans, qui devrait arriver en Europe dès sa majorité, qu'on devrait découvrir si le Mexique joue au moins 4 matchs dans cette Coupe du Monde, et ça, c'est pas gagné. Merci les drôles de dames pour cette soirée. On va se plonger maintenant dans la
Turquie,
Coupe du Monde.
La Turquie, oui, c'est pas mal. Ouais.
La Turquie, ça joue aussi ce soir.
Très bonne génération.
C'est bien la Turquie.
Chalouzoun et tout ça aussi.
Il y en a mis 4 à la Macédoine du Nord, notamment un mauvais souvenir là aussi pour Daniele. Voilà les amis, c'était la dernière de la saison. Merci à vous 4, bien sûr. Maintenant on se plonge dans le mondial ensemble sur RMC. Lundi prochain, il n'y aura pas d'émission drôle de dame puisqu'il y a un match de l'équipe de France qui joue contre l'Irlande du Nord. Ça se passera au stade Pierre Mauroy à Lille. Dans un instant, justement, dans l'after, le président lillois Olivier Létang avec Gilbert, Daniel, notamment de 22h à minuit. Restez à l'écoute RMC et bonne soirée à tous. Bye bye.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.